sur l'info.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Bonsoir à tous, bienvenue sur cette libre antenne qui est la vôtre jusqu'à 1h du matin. Ce dimanche soir marque la fin d'un long week-end de la Toussaint durant lequel vous êtes peut-être allé retrouver votre famille et célébrer vos défunts. Pour d'autres, il signifie simplement la fin du week-end. Mais pour beaucoup de parents, ce qui est sûr, c'est qu'il signifie aussi que l'école reprend demain et avec elle les rythmes à respecter, notamment les rythmes du sommeil. Voilà par exemple, tiens, un sujet que nous pouvons aborder ce soir. Si vous avez des problèmes de sommeil ou si vos enfants en ont, parlons-en car dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, il y a des choses qu'on ne sait pas et qui peuvent nous aider. Nous pouvons donc parler du sommeil mais aussi du stress, des angoisses, de la dépression, des addictions, des comportements répétitifs, des émotions difficiles à gérer, des relations conflictuelles, tout ce qui fait notre vie finalement. Venez me rejoindre ce soir dans ce beau studio d'Europe 1. Je vous fais une petite place pour que vous puissiez sortir d'un moment de solitude, ouvrir votre cœur et entamer un dialogue qui, je l'espère, vous fera du bien. Le numéro de téléphone, vous le connaissez, c'est le 3921 avec au bout du fil Amandine et Hassan qui vous accueillent en toute bienveillance. Vous pouvez aussi participer à l'émission en envoyant vos SMS au 73921. Pensez bien à commencer par le mot « nuit ». Des SMS pour apporter un témoignage constructif, donner un conseil ou encore un mot de soutien. Cette libre antenne, c'est la vôtre et elle commence maintenant sous la houlette ce soir d'Andreas Papadzian.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marin.
Et on va débuter ce soir cette émission avec Charlotte qui se pose pas mal de questions sur son couple. A tout de suite.
La libre antenne sur Europe 1, Sabine Marin.
Et c'est donc vous, Charlotte, que j'accueille en premier ce soir. Bonsoir, Charlotte.
Bonsoir.
Alors dites-moi, quelle est votre histoire à vous ?
Merci de me prendre à l'antenne déjà.
Avec plaisir.
Alors je vous appelle parce que je suis dans une situation que j'ai retournée, je ne sais combien de fois dans ma tête, et j'ai du mal à faire le bon choix, à prendre des décisions, à savoir où aller. Je suis en couple depuis relativement longtemps, depuis 19 ans. J'ai connu mon mari très jeune, à 18 ans.
Quel âge avez-vous ?
38 ans.
38, oui, d'accord.
Ouais.
C'était le premier ?
Oui. Mm-hmm. Ouais. Ça a commencé assez fort. Une histoire de 18 ans, enfin, un début de couple à 18 ans, donc quelque chose d'assez intense. On a deux personnalités, on est assez différents. On a des modes de vie, des philosophies de vie assez différentes.
C'est-à-dire vous êtes comment et lui est comment ?
Moi, je suis plus dans la réflexion, dans la communication. Lui est plus dans le moment présent. Il ne se pose pas de questions sur lui-même. Il sort beaucoup. Il est dans l'excès, dans l'addiction. Une vie un peu foufou. Et moi, plutôt une vie un peu rangée. Et ça a toujours été comme ça. On s'est toujours assez bien complété. Mmh. Moi, je l'ai assagé un petit peu. Lui, il m'a fait découvrir les sorties et tout ça. Et notre histoire a continué. Donc, ça fait quand même 19 ans qu'on est ensemble.
Ouais.
Il a toujours eu...
Des enfants, pardon, pendant ces 19 ans, des enfants ?
Oui, 4.
4 enfants ?
Ouais.
D'accord.
Donc, ils sont encore jeunes. Il a toujours eu un rapport à l'alcool que je n'ai jamais trouvé normal, que j'ai subi, que j'ai laissé faire, pour lequel j'ai insisté, j'ai menacé, j'ai essayé de négocier, de faire prendre conscience, mais ça n'a jamais été au-delà. Pour lui, il n'y avait aucun problème, à savoir que chaque fois qu'il y avait une moindre soirée, soit il rentrait dans des états pas possibles, soit il ne rentrait pas, soit on m'appelait pour me dire qu'il ne pouvait pas rentrer, mais je le savais. Et au bout d'un moment, le rythme est venu, qu'il restait là où il était, et c'était très bien comme ça.
Jusqu'où il allait ?
Là, on est parti.
Excusez-moi, ça résonne énormément, Charlotte. Est-ce qu'il y a un haut-parleur ou quelque chose ?
Non, il n'y a pas de haut-parleur.
Bon, on va continuer. Jusqu'où ça allait, cet état d'ivresse?
Il pouvait ne pas forcément se rappeler de ce qu'il avait fait le soir. Oui, il rentrait, il conduisait, mais rapidement, il s'endormait, il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé.
De la violence?
Non.
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 D'accord.
Il y a eu une fois où il m'a saisi un peu fort, parce que justement, je lui interdisais de rentrer dans la chambre, où il s'était dit qu'à ce moment-là, parce qu'il avait entendu des collègues dire « Tu peux pas te laisser dormir sur le canapé, tu es chez toi, tout ça. » Donc, ce soir-là, il s'était dit « Je vais passer la porte. » Et pour le coup, il m'a attrapé un petit peu les bras. Il a compris par la suite, ou la semaine après, il ne se souvenait plus forcément ce qu'il avait fait. Et comme il y a de longs blancs qui suivent ces soirées-là, il peut y avoir jusqu'à 2 semaines où il n'adresse pas la parole et où moi j'attends qu'il vienne rompre le silence. Donc je laissais faire et puis à ce moment-là, je lui ai dit que c'est la seule et une fois, il n'y a pas possibilité d'aller tout seul. Mais c'est la seule fois, il n'y a rien d'autre. Et en fait, de par cet état-là qui s'est un petit peu démultiplié parce qu'on est parti en expatriation pendant 4 ans et du fait de la. À l'endroit où l'on vivait, la proximité professionnelle-personnelle a fait que ce problème-là était très récurrent. À savoir, tous les mois, il y avait quand même un retour dans un état qui n'était pas possible. Donc, voilà, donc on vivait tous proches les uns des autres. Donc, moi, je rentrais, je m'occupais des enfants. Mais bon, c'était une situation qui ne me convenait pas. Par contre, là où la situation a fait basculer, c'est quand les enfants ont commencé à être exposés à ça.
C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que les enfants l'ont vu, l'ont su?
Petit, non. Et puis un jour, je suis rentrée seule avec le plus jeune et puis le grand est resté. Et puis le grand est rentré, il voyait bien que papa n'arrivait pas à ouvrir la porte. Et puis donc là, il y a eu des petites fois comme ça. Mmh. Ou alors, lorsqu'il prenait l'apéro le soir, il avait des manières de s'exprimer qui n'étaient pas correctes, qui me manquaient de respect. Il disait des choses qu'on n'a pas à dire devant les enfants.
Vous en avez parlé avec
donc,
eux?
Donc là, ça commençait. Comment?
Vous en avez parlé avec vos enfants?
Le plus grand, oui. Pour les plus jeunes, je laissais un peu, enfin, je changeais de discours. Non, mais ils étaient trop jeunes pour. Voilà, je changeais la discussion ou si vraiment le temps montait, je mettais un dessin animé et puis ça passait comme ça. Par contre, le plus grand, oui, je lui ai dit, tu sais que ce soir, on ne parle pas à papa, tu sais que voilà, dans la journée, on le laisse tranquille. Hier soir, il est rentré tard, donc voilà, il le savait. Si tu as besoin, tu viens me voir à moi et pas forcément à lui. Donc ça, il le respectait.
D'accord.
Après, c'est un très bon père, c'est quelqu'un de très attentionné. Mais il y avait pour moi, ce rapport qui n'est pas normal, qui a été complètement le déclencheur. Sans que c'était moi qui étais exposée, j'en souffrais, je pleurais, j'essayais de trouver des solutions, j'essayais de lui faire prendre conscience, de lui dire qu'il y avait une base à ce problème, que c'était un problème et qu'on pouvait le traiter ensemble. Mais à son niveau, il n'y avait aucun problème et il n'y a toujours aucun problème.
Il est dans le déni complet.
Complet. Mais c'est tout à fait normal, c'est juste une fois de temps en temps, c'est pour s'amuser, sauf qu'une fois, bon, mais ça fait quand même 18-19 ans, donc au bout d'un moment, une fois, on le sait. Donc moi, j'ai commencé à prendre du recul quand ça a touché les enfants, à dire, voilà, il n'y a pas de... pour te concernant, il n'y a pas de problème, ton non-problème en vient pour moi, donc je me recule. Donc j'ai commencé à le verbaliser comme ça, et je lui dis, il n'y a pas de souci. Et du coup, quand il est rentré et que je restais face à lui sans rien dire, il le voyait, j'étais conscient. Hein. Tu m'affirmes qu'il n'y a pas de problème. Donc bon, à ce moment-là, il n'y a pas de discussion qui se met en place.
Donc quand il est dans cet état-là, non, j'imagine qu'il n'y a aucun dialogue.
Non, mais même après, parce qu'en fait, il s'enferme dans une espèce de silence. Il est capable de tenir des semaines, et la plupart du temps, c'est moi qui viens le briser, mais on se lasse au bout d'un moment.
Ben oui, bien sûr.
Donc, fin d'année dernière, j'ai commencé à lui dire que je prenais du recul, que je m'éloignais, que ça tuait notre amour, qu'il y avait trop de distance. Et puis, je l'ai verbalisé au fil des mois, en disant là, vraiment, à 50%, à 80%, c'est compliqué. Je trouve qu'on arrive au bout de notre histoire. Et puis, il est allé, et puis ça a continué jusqu'au jour où je lui ai dit, c'est vraiment pas possible, cette attitude-là. Il n'en avait pas pris conscience. Et un jour, il m'a posé vraiment la question, parce qu'on avait déjà parlé, évoqué la séparation, il m'a posé la question et je ne voulais pas y répondre. Et lorsqu'il a insisté sur le fait d'avoir une réponse, je lui ai dit, effectivement, tu considères que ce comportement-là est normal, tu considères qu'entre nous, c'est fini. Donc je vais rentrer, parce qu'on était en métropole, je vais rentrer et puis on tourne une page. Et le lendemain, il a pris conscience, il a entendu tout ce que je lui avais dit, par l'intervention d'un collègue, il a dit, ton comportement...
C'est ce que j'allais vous demander, est-ce qu'il y a quand même des gens autour de vous qui lui parlent? Est-ce qu'il y a de la famille, des parents ou des beaux-parents qui interviennent?
Alors non, dans sa famille, il y a une espèce de silence, de non-dit tabou qui perdure et qui est un petit peu la base, je pense personnellement, de son problème. Mais lui, il dira que non, il m'a toujours dit que non. C'est pas une famille dans laquelle on discute, dans laquelle on s'ouvre. Et autour de lui, bah, souvent les collègues, ils sont alors dans la même situation, oui et non. C'est-à-dire que là, dans le séjour qu'on a vécu en expatriation, cette proximité professionnelle, personnelle et le milieu dans lequel ils étaient, effectivement, il y en avait quand même beaucoup, les soirées débordaient beaucoup. Donc c'était un petit peu à la rigolade, à peu près normal, t'as passé comme une jour sur le canapé, et puis ça...
Limite, c'est vous qui êtes la rabat-joie, quoi.
Ah oui, oui, ben complètement. Mais j'ai toujours porté cette casquette-là. Comme je suis fille d'une famille assez enfin, droite, voilà, où la vie est simple, la petite maison dans la prairie, pour le coup, j'étais toujours un peu la fille coincée. Et je l'ai toujours portée comme ça. Sauf qu'au fil des années, et puis en grandissant et en me posant des questions, et puis en mûrissant tout simplement, je me suis dit qu'en fait, non, c'est juste une vie qui ne me correspondait pas, que ce n'est pas moi qui suis dans la normale, que c'est juste un comportement qui n'est pas acceptable quand on devient père de famille et que les années avancent comme ça. Après, là où j'en suis aujourd'hui, c'est que réellement, il y a eu cette prise de conscience là où du coup, il m'a demandé d'attendre 6 mois et de lui laisser 6 mois pour me reconquérir, parce qu'on avait 6 mois avant notre retour en métropole. Donc j'ai laissé ce temps-là, nous sommes rentrés en métropole, et là maintenant, ça fait quand même 10 mois, on est dans une espèce de latence où je me demande si le point de non-retour n'était pas atteint. Par contre, depuis ce temps-là, il met tous ses efforts possibles et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre à mes attentes. Et il le fait réellement par peur de me perdre. Je me retrouve aujourd'hui dans une relation où, quand je parle, on m'écoute, ce à quoi je n'ai pas été habituée. Oui. Là, encore plus récemment, quand il a senti que je m'éloignais et qu'il me voit encore plus et qu'il a énormément peur de cette éventuelle rupture. Il vient lui-même me parler, alors que c'est des choses que j'ai demandées pendant 18 années que j'ai jamais mis. Et là, il vient créer des discussions. Alors, dans l'idéal, c'est tout ce que j'ai toujours souhaité. Mais ça ne redéclenche pas en moi de flamme. Et je me pose la question sur si cette flamme, elle peut y être après autant d'années. Ce n'est pas juste une habitude qui fait que c'est de l'affection qui remplace l'amour réel. Et si quelque chose peut être redéclenché par un changement d'attitude, parce que ce n'est pas réellement... J'ai arrêté de boire parce que j'ai pris conscience d'eux, et j'arrête de boire parce qu'il est impossible pour moi de te voir quitter ma vie.
Parce que j'ai peur. Hein.
Et comme tu as besoin d'être écouté, je vais t'écouter, mais je ne pense pas que la communication soit principale dans la vie, alors que pour moi, c'est principal. Donc c'est vraiment des valeurs de vie qui ne sont pas les mêmes. Le résultat est le même, en fait.
Ce qui vous ennuie, c'est la raison pour laquelle il fait ça, en fait. Il ne le fait pas par conviction, il le fait pour ne pas vous perdre.
C'est ça. Et je me demande si ça a le même poids. Et si ça a la même finalité, en même temps, le quotidien, depuis autant de mois, en fait, j'ai pris tellement de recul que le quotidien est léger. Je me fâche plus.
Ça, c'est bien.
Je pleure plus pour lui.
Est-ce que, si j'ai bien compris, est-ce qu'il a vraiment complètement arrêté de boire depuis 10 mois?
Alors, non. Non. Par contre, chose qui n'était jamais arrivée, on a fait des journées entre amis, il est rentré avec nous. Donc ça, c'était déjà très agréable. Il est rentré dans un état correct. Quand on est rentré en métropole, c'était les grandes vacances, j'ai vu quelques bouteilles qui se vidaient visiblement quand moi j'étais au lit. Parce que avant que je me couche, elles n'étaient pas et je les voyais disparaître. Donc il y a eu cette phase-là de grandes vacances, donc je n'ai rien dit. Parce que quelque part, en fait, à un moment j'avais le sentiment que j'attendais la faute. C'est un peu malsain, mais dans la situation où j'étais... Voilà, c'était un peu l'attente de l'erreur, quoi. J'ai rien dit, et puis un jour, il m'a redit, mais on va où? Enfin, t'es tellement loin, il me sent tellement loin, il n'y a plus de... il n'y a plus d'envie, il n'y a plus de libido de ma part, je ne vais pas générer l'échange. Moi qui ai toujours été porteuse des occasions, de la vie de couple, des voyages ou des sorties, des projets, là, je ne le fais plus. Par contre, j'accepte que lui le fasse quand il m'a demandé en janvier de lui laisser cette chance. Moi, j'ai considéré que je lui laissais la chance de me reproduire. Et lui a compris qu'en fait, on repartait comme une continuité d'après-ici. Sauf qu'on n'était pas du coup sur une attente. Donc lui espère qu'on soit dans la continuité et que je sois toujours génératrice de ce mouvement de couple. Parce que moi, je me suis épuisée. J'ai plus envie.
C'est ça que j'ai l'impression, coup, là... en vous écoutant, c'est que vous êtes fatiguée de toute cette histoire. Je suis pas sûre que le sentiment soit pas là, mais vous êtes épuisée d'avoir géré tout ça pendant trop longtemps, quoi.
Alors, je suis fatiguée, mais en même temps, j'ai conscience qu'aujourd'hui, ça se passe très calmement. En fait, on a un équilibre parental et un équilibre du quotidien qui est très agréable. On se complète bien dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. C'est un super papa et les enfants sont ravis.
C'est important, ça.
D'avoir... Comment ?
C'est important.
Oui, c'est important. C'est important. Mais moi, je ne vibre pas. Alors, je ne sais pas si c'est un blocage que je me suis créé du fait d'avoir dit, d'avoir verbalisé. Et pour le coup, j'ai quand même beaucoup de mal à revenir sur ce que j'ai dit à tout niveau. Enfin, à toute personne. Une fois que j'ai acté qu'il y avait une page qui tournait, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit. Donc, je ne sais pas si c'est un blocage que je me suis créé. Est-ce que réellement la flamme peut se recréer dans le sens où elle a quand même été bien étouffée?
Une flamme peut toujours se rallumer, ça, je vous rassure. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les choses changent. Si lui ne change rien, rien ne changera derrière. Mais il ne faut pas qu'il change pour vous faire plaisir, mais parce qu'il comprend.
Alors, ben, en fait, quand je lui verbalise ça, il me dit que le résultat est le même. Je lui dis, tu n'as pas pris conscience, tu le fais parce que tu as peur. Il me dit, mais on s'en fout, le résultat, c'est que je
et
fais
non.
Ce que tu veux.
Et non, parce que
dit,
les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Comment ça?
C'est-à-dire que s'il le fait uniquement pour vous faire plaisir et qu'il n'est pas persuadé des choses, les mêmes causes finiront par reproduire les mêmes effets. C'est qu'il recraquera de la même manière. Il se laissera aller trop rapidement si jamais il pense vous avoir réussi à vous reconquérir, quoi.
Oui. Alors après, pour l'instant, c'est pas arrivé, mais comme ils sont loin quand même depuis autant de temps.
Alors est-ce qu'il se fait aider, votre mari? Est-ce qu'il a vu une thérapeute?
Non, alors il refuse, je lui ai proposé une thérapie, alors une thérapie personnelle, je pense que ce serait salvateur. Mais comme il a le sentiment que sa vie va bien, parce qu'il voit au jour le jour, il ne se remet pas en question sur les problèmes qu'il a pu avoir pendant l'enfance, etc.
Alors c'est ça, j'aurais voulu qu'on prenne un petit moment pour en parler, parce que je pense qu'il souffre d'une blessure qu'on appelle la blessure de rejet, votre mari. Comment était son enfance?
Il a été orphelin d'un parent dont l'autre parent a interdit qu'on en parle toute sa vie et dont il n'a aucune connaissance.
C'est-à-dire, racontez-moi.
Il a perdu son papa très jeune et on a toujours dit on a interdit d'en parler. Il a aucune histoire sur son papa et quand on en parle, il se ferme directement. Et je pense que de là, il y a quand même un grand manque de confiance parce que du coup, les nouveaux beaux-pères qui sont arrivés ont interdit qu'on évoque son père. Oui. Et je pense que de là, il y a un manque de confiance qui a généré également une jalousie maladive dont j'ai pu, que j'ai pu subir pendant des années avec des crises de jalousie et des imaginations débordantes qui pouvaient démarrer de rien.
L'enfance qu'il a vécue, en fait, a créé un manque d'estime énorme.
Et souvent, cette
blessure-là déclenche l'alcool, le fait de se noyer dans l'alcool, le fait de sentir incompris, le fait de ne pas être complètement sûr d'avoir le droit d'exister, d'être dans une fuite aussi permanente. Et souvent, inconsciemment, on détruit, on sabote ses relations. Et inconsciemment, il sabote votre couple en faisant ça.
Mais moi, alors en plus, son parent est décédé d'une cirrhose et avait cette addiction. Mais moi, j'en ai conscience. Mais autant de fois que j'ai pu le répéter, et j'ai pu le tourner dans tous les sens et essayer de le sensibiliser, de passer par sa famille en disant « parle-lui de son papa, prends conscience de ça » ou « il n'y a rien, c'est hermétique ». Au point que de toute manière, quand j'évoquais encore le sujet il y a un an et demi, il me dit « mais de quoi tu parles? Tu connais rien, tu n'as pas à me parler de ça ». Est fermé. C'est un sujet qui est fermé, mais pour lui qui ne pose aucun problème. Mais c'est une personne. Alors, autant c'est un homme qui est vraiment quelqu'un de très bien. C'est là que ma décision est difficile parce que c'est quelqu'un de très bien, c'est un super papa. Il est très attentionné, il s'occupe très bien de moi. Le fait est que les sentiments, quand même, sont. Je sais pas. En tout cas, je pense qu'ils ne sont plus là. Par contre, il ne réfléchit pas sur lui-même. Alors, moi, pour le coup, j'ai pris un chemin. Autre dans le sens où depuis un an et demi, je suis partie dans le développement personnel, donc je réfléchis encore plus sur moi et je trouve que je m'ouvre encore plus.
Donc le décalage va être encore plus grand.
C'est ça.
Déjà, vous me disiez qu'au départ, il y avait ce décalage-là, lui était plutôt dans l'instant présent et vous dans la réflexion. Mm. Et vous allez encore plus dans ce chemin-là vers lequel il ne vous suit pas du tout, en fait.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça qui est difficile. Mais en même temps, il a quand même progressé depuis 10 mois. Parce que déjà, il vient discuter. Déjà, c'est merveilleux.
Il a ouvert une porte. Même s'il n'est pas convaincu de la raison pour laquelle il le fait, il le fait.
Il le fait. Il ne se pose pas de questions. Il le fait. La raison, je pense que c'est pour me garder auprès de lui. Le résultat est quand même le même. Sauf que c'est pas...
Ce qui vous inquiète,
c'est
vous,
pas
c'est que vous avez,
que j'aurais espéré, en fait.
Vous avez l'impression que vous ne l'aimez plus ?
J'ai ce sentiment-là, mais je ne sais pas si c'est un blocage que je me crée en disant c'est pas possible, parce que j'ai vécu toute cette partie qu'il a gardée cachée, tout ce cloisonnement qu'il a fait de sa vie professionnelle. J'ai été au courant de rien pendant tant d'années. Et je lui ai tellement dit, mais raconte-moi ce qui se passe. Et c'était les pointes des collègues qui me racontaient, ah, il s'est passé ça. Et moi, j'étais pas au point, mise devant le fait accompli lors d'un repas à plusieurs. C'est quand même relativement désagréable. Mais je l'ai connu combien de fois, cette situation. Et aujourd'hui, où on en est à ce point-là, il me raconte tout ce qui se passe dans ses journées. Mais aujourd'hui, je suis même plus intéressée par ça. En fait, il y a comme un décalage sur ses actes et mes attentes. Et je ne sais pas si ça peut redémarrer. Le fait d'avoir cette lassitude-là et de ne plus se sentir vibré, c'est lié au fait que notre couple quand même s'approche d'une vingtaine d'années et que c'est normal, au bout d'un moment, c'est juste de l'affection.
Il y a ça aussi.
Il faut des échanges.
Est-ce qu'une thérapie de couple ne serait pas envisageable ?
Alors, je lui en ai parlé il y a quelques jours. Le truc, c'est une perte de temps et d'argent. Okay. Parce que, en fait, tous les petits sont inutiles. Et on ne va pas demander à une tierce personne de régler nos problèmes personnels parce qu'on sait gérer nos vies.
Charlotte, excusez-moi de vous couper, mais je reçois plusieurs messages d'auditeurs qui me disent qu'on vous entend très mal. C'est vrai que pour moi aussi, la communication est très, très pénible.
Ah, pardon.
Est-ce que... Ah, allez-y, là.
C'est mieux ?
Ah bah oui, là, c'est beaucoup mieux.
Ouais, je tiens le téléphone un peu plus près.
Ah bah oui, parce que ça devenait un peu compliqué de vous comprendre.
D'accord, pardon.
Je pense qu'il ne veut pas la thérapie de couple, mais il arrive à un moment donné où il va falloir faire quelque chose. Parce que là, vous êtes dans une impasse avec votre histoire. Je ne sais pas si les sentiments sont là ou pas. Évidemment, je ne peux pas le savoir. Et je pense que dans le fond de votre cœur, vous le savez. Mais pour l'instant, comme vous dites, il y a trop de choses qui coincent et il faut aller mettre tout ça à plat chez quelqu'un. Mais ce n'est pas à vous de faire ce chemin, ni à lui forcément de son côté, mais à vous deux. Et là, il me semble qu'une thérapie de couple est indispensable.
Et vous pensez que sur le chemin de développement, si moi j'avance sur le développement personnel, mais que lui ne le fait pas parce qu'il n'en voit pas l'intérêt, parce que pour lui, la vie du quotidien suffit et chaque jour qui passe se suffit à lui-même, vous pensez qu'un couple peut évoluer dans ce chemin-là ?
Oui, j'en ai rencontré quand un des deux fait ce chemin-là, parce que l'air de rien, il amène l'autre petit à petit quand même. Le fait de changer soi-même fait que l'autre change un petit peu. Mais pour ça, il faut que certains problèmes de fond soient réglés. Alors comme vous dites vous-même, au bout de 20 ans, déjà c'est déjà formidable d'avoir tenu longtemps, d'avoir fait 4 enfants. 20 ans, c'est un long chemin. Et il peut y avoir effectivement des pauses. La petite flamme, comme vous dites, elle peut c'est peut-être pas s'éteindre complètement, mais en tout cas avoir un coup de mou, un petit coup de faiblesse.
Ouais.
Et je pense pas que le fait que vous fassiez ce chemin-là, vous comment vous dire, casse les choses entre vous. Simplement, il y a deux choses. Il y a le côté couple où là, vraiment, il faut que lui aussi accepte de travailler. Si ce n'est seul, c'est avec vous. Se repositionner sur ce qui s'est passé avec l'alcool et le pourquoi du comment, il y a quelque chose qui coince. Et ensuite, accepter que vous fassiez un chemin personnel sur lequel petit à petit, vous allez pouvoir l'amener, mais sans forcer les choses. Pas en lui disant, voilà, c'est moi aujourd'hui, en partageant par exemple des lectures, en partageant...
Oui, c'est ce que je fais. Il le suit.
Ah bah vous voyez, par petites touches, discrètement. Mmh. En laissant quelques infos, en lui parlant d'une expérience que vous avez faite, des choses comme ça. Mais ça, c'est un autre débat. Et moi, je pense que le nœud central, il ne va pas se dénouer s'il n'y a pas un petit travail de couple. Vous savez, une thérapie de couple, ce n'est pas forcément des années. Hein. Vous pouvez lui dire, écoute, on part pour quelques rendez-vous, mais il faut qu'on se retrouve là-dessus, il faut qu'on pose les choses à plat.
Oui, je lui ai proposé déjà. Du coup, pour pas fermer la discussion, en fait, je lui ai présenté les avantages que ça pourrait avoir et le fait qu'une tierce personne extérieure pourrait quand même nous apporter quelques outils.
Vous avez entièrement raison, autre, bien sûr.
Que ça n'engage à rien, que c'est pas quelqu'un qui va qui va créer une introspection et nous juger, tu vois, parce qu'en fait, il a peur de ça.
Il a peur d'arriver,
d'être critiqué, de que tout soit ça.
Alors, faut vraiment le rassurer là-dessus. Une thérapeute ou un thérapeute n'est pas du tout là pour juger, bien au contraire. Pour vous aider, vous accompagner. Moi, j'entends quand même qu'il y a des deux côtés beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'envie de je sais pas si le mot réparer est adéquat, mais en tout cas, de faire que les choses repartent et continuent. Parce que vous savez, c'est relativement facile de détruire un couple. C'est souvent plus difficile de travailler à sa reconstruction.
Ouais. Mais là, je crois qu'aujourd'hui, le plus simple.
J'entends que tous les deux, vous en avez envie. Mais il y a des maladresses, il y a des lacunes de chaque côté, parce qu'il y a peut-être un manque d'accompagnement, et ça me semblerait vraiment, vraiment important que vous fassiez ça.
Ouais.
Mais rassurez-le.
Vous pensez que si on part sur un travail, et que juste il met de côté le problème qu'il y a eu, si je peux parler au passé, avec son rapport à l'alcool, vous pensez que les choses peuvent avancer, ou il faut forcément traiter ce sujet-là?
Ça fait partie de votre histoire de couple et de pourquoi vous avez pris de la distance. Donc, c'est compliqué. Mais ne lui dites pas ça, il s'en rendra compte lui-même. Mais c'est comme parler d'un problème en disant on va parler d'un problème, mais on n'aborde pas le problème. L'origine de la chose, c'est quand même ça. Vous êtes éloigné pour vous protéger de plus en plus. Et cet éloignement a fait que le chemin s'est écarté du sien et que vous avez du mal à reprendre le même que lui.
Ça.
Donc ça, il faudrait accepter au moins qu'il en parle et de qu'il comprenne aussi le mal que ça peut vous faire, de le voir entrer dans ces états-là, par rapport à vous, par rapport aux enfants, par rapport à la peur de l'avenir aussi. J'imagine quand on a son mari qui rentre bourré à ce point-là de plus en plus fréquemment, on s'inquiète pour la suite. Il faut qu'il comprenne ça, sans l'accuser, sans au contraire, en mettant en avant le fait qu'il fait beaucoup d'efforts. Mais ça me paraît important de mettre tout ça à plat, qu'il comprenne tout ça.
Ce que vous disiez, en fait, j'ai pas l'envie de retomber dans son chemin. En fait, j'ai l'envie, au contraire, de retomber sur le même chemin que lui. J'ai envie de dire non. En fait, je suis bien sur le chemin sur lequel je suis. Et je me suis trouvée. Paradoxalement, en fait, je me sens bien. J'ai développé quelque chose. Je me sens épanouie. Je suis sur mon chemin. Je me pose plus de questions. Bien sûr, je pense toujours aux enfants, tout ça, mais
ça, c'est votre développement personnel, c'est votre chemin personnel.
Oui.
Mais on a plusieurs chemins dans une vie. On a un chemin perso, puis on a un chemin avec son conjoint, puis on a un chemin avec ses enfants.
Qui peut être différent.
Qui peut être différent, mais parallèle. Donc, sur votre chemin à vous, que vous ayez un développement, une compréhension des choses, une envie d'autre chose, c'est intéressant. Après, à vous de voir si sur le chemin avec votre conjoint, vous avez envie de continuer ou pas.
D'accord.
Pour l'instant, il me semble que oui. Il me semble que ça vaut le coup d'aller sur ce chemin-là, réparer ce qui est réparable et voir ce qui se passe. Après, il sera toujours temps, dans quelques mois ou dans quelques années, si vraiment ça, vous n'avez plus envie d'avancer sur ce chemin-là, de lui dire, écoute, voilà, pour moi, c'est terminé. Mais je pense que c'est pas encore le cas.
Ok.
Et qu'avant tout détruire, il faut quand même essayer de réparer les choses. Parce que 20 ans, c'est pas rien.
Non, c'est ça. C'est important. Et puis, il y a le poids de la famille et la responsabilité de faire imploser la famille. Et c'est pas évident, c'est lourd. D'autant plus face à tous ces efforts et face à tout ce quotidien qui est tout de même agréable, en fait.
Ben c'est ça que j'entends aussi. C'est que vous me diriez, la vie est un enfer. Mais non, c'est pas le cas.
Non, mais oui. Mais ce serait plus simple. Je me poserais pas tant de questions.
Mais vous savez, ça se saurait, Charlotte. Ouais. Si la vie était simple, ça se saurait.
Oui.
Elle l'est
non,
rarement.
Mais c'est vrai que je me suis toujours imaginé qu'une séparation, qu'un divorce, ça se faisait dans la douleur, dans la haine. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. J'ai beaucoup d'affection et je suis très apaisée. Et quand j'ai évoqué un divorce, je lui ai dit que j'avais beaucoup d'affection et qu'il ferait partie de ma vie, toute ma vie, qu'il fait partie de moi maintenant. Et je pensais pas à ça, en fait. Enfin, je pensais pas, en imaginant un éventuel divorce, que ça pouvait se passer comme ça.
Oui, mais là, ce ne sont que des mots. Une fois que le divorce commence à se mettre en place, c'est pas forcément aussi simple et doux que
d'accord.
ça. Ça peut être beaucoup
d'accord.
plus violent d'un seul coup de réaliser que, voilà, il y a quatre enfants, il n'y a plus de mari, c'est pas forcément si simple.
D'accord.
Pour l'instant, c'est une notion. C'est un concept.
Une protection, peut-être.
Oui, aussi. Donc, essayez vraiment de lui faire comprendre qu'une thérapie de couple, ça vous ferait du bien. C'est important.
Ouais. D'accord.
Vraiment, vraiment.
Quand j'ai lancé le sujet, je n'ai pas exigé de réponse immédiate.
Oui, mais là, mettez-lui un petit coup de pression là-dessus. Non, mais vraiment.
Oui, les semaines peuvent passer. Ouais.
Faites-lui comprendre que le temps passe vite et que le temps est précieux. Et que... Mais sans culpabilité, il ne faut pas qu'il ait l'impression qu'il va être jugé, qu'il va être obligé d'encore de se sentir coupable. Ce n'est pas le but du tout. Le but, ouais, c'est de défaire quelques nœuds, et il y a de très bons thérapeutes de couple qui sont là pour ça.
Oui, je pense, oui.
D'accord.
Très bien. Je vous remercie de vos conseils.
Merci de votre appel, Charlotte, et je vous souhaite plein de bonheur.
Merci
pour la suite. Je vous embrasse.
Bonne fin de soirée, au revoir.
Bonne soirée, au revoir.
Europe 1, la libre antenne. Sabine Marat.
Alors, j'ai lancé le débat tout à l'heure sur le sommeil. Il y a Catherine qui nous a appelé pour parler justement de ce problème-là. Bonsoir à vous, Catherine.
Bonsoir, Marie.
Sabine.
Excusez-moi, Sabine. Oui, je vous remercie de me reprendre. Je vous avais eu il y a quelques jours pour des problèmes de dépression. Et là, ce soir, quand vous avez parlé d'insomnie, ça m'a interpellée parce que, en fait, je prends des somnifères depuis que je suis toute petite.
Oui.
Et c'est le médecin qui avait prescrit parce que je ne dormais pas.
Attendez, quel âge les premiers somnifères ?
Je devais avoir 5-6 ans, même pas.
Non.
Des sirops qu'on me donnait, quoi.
Oui, ça me paraît complètement aberrant, mais bon.
Oui, c'est aberrant. Moi, je suis d'accord avec vous parce que du coup. À 6 ans, j'ai vu une psychologue parce qu'à l'école, ça n'allait pas. Vu qu'il n'y avait pas mon nombre de sommeil, parce que je m'endormais plutôt le matin que le soir. Et la psychologue avait dit à mes parents il faut absolument qu'elle aille dormir vers 6h30 le soir. Alors mes parents, ils ont fait, et en fait, à 11h, j'étais réveillée. Et j'étais incapable de me rendormir, quoi. Et c'est là que le médecin a dit, il faut lui donner du sirop, et voilà, quoi. Alors là, je prends des médicaments pour dormir, mais il y a des fois, quand il y a, c'est ce que je disais à votre collaborateur, et j'ai passé 4 nuits et 4 jours sans dormir. C'est vraiment, on a l'impression qu'on va devenir fou, quoi.
Ah, c'est ouais, ça rend fou le manque de sommeil, ça c'est sûr.
Ah oui, je croyais que ce jour-là, j'allais mourir, quoi. En plus, j'étais dans un hôpital pour me soigner, et le psychiatre, j'avais beau leur expliquer aux infirmières que je ne dormais pas, et le psychiatre me disait, mais c'est impossible, vous devez dormir. Et non, il s'est rendu compte au bout de 4 jours qu'effectivement, je n'avais pas dormi, quoi.
Non, vous avez, depuis que vous êtes petite, vous avez détraqué complètement votre sommeil et vos cycles.
Oui, voilà.
Et vous n'êtes pas la seule. Je sais qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous écoutent et qui ont des problèmes de sommeil.
Oui.
Et justement, c'est intéressant parce que je vais vous donner quelques trucs, quelques informations qu'on ne nous donne jamais, et c'est bien dommage.
Ah oui.
La première chose à comprendre, c'est que nous fonctionnons tous sur un rythme de 90 minutes jour et nuit.
Oui.
C'est-à-dire sur des rythmes de 90 minutes. Toutes les 90 minutes, jour et nuit, on a ce qu'on appelle un petit coup de fatigue. La journée, c'est, vous savez, ce moment où on s'étire, où on a la nuque qui fait un peu mal, où on a les paupières qui sont un petit peu lourdes, et puis ça repart. Donc ça, c'est important de comprendre ce rythme-là physiologique, il est naturel et on l'a tous. Jour et nuit.
D'accord.
Ça veut dire que la nuit, quand on se sert de ces cycles, quand on les connaît, moi, j'appelle ça les trains du sommeil. Ça veut dire que quand on connaît son cycle, on sait particulièrement qu'il faut se mettre au lit au début d'un cycle. Par exemple, si vous avez des cycles qui commencent, je vous dirai après comment on comprend ces cycles et comment on les détermine. Vous avez un cycle qui commence à 23 heures. Vous savez que c'est le début de cette période où vous êtes un petit peu fatigué, c'est là qu'il faut se coucher.
Oui, mais je suis jamais fatiguée, c'est ça.
Parce que vous avez détraqué tout ça. Laissez-moi vous expliquer la suite avec les cycles.
Je vous en prie, excusez-moi.
Quand vous connaissez bien vos cycles, vous savez par exemple que le coup de barre, il arrive à 23 heures.
Oui.
Il faut savoir, on va appeler ça le train du sommeil, qu'on a 7 minutes pour monter dans le train. Ça veut dire qu'une fois que vous avez déterminé vos cycles, vous savez par exemple que si vous avez des amis qui sont encore là à la maison, ou si vous voulez regarder la fin d'un film, et qu'il est juste un peu avant 23 heures, ça sera trop tard. Il faut être déjà au lit au début de son cycle. On a 7 minutes pour s'endormir quand c'est le début de son cycle.
D'accord.
Et qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Pendant la nuit, de la même manière, toutes les 90 minutes, on va se réveiller. Alors on se réveille très très légèrement. La plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est par exemple quelqu'un qui peut ne pas entendre un très très gros bruit un quart d'heure avant, mais qui pile poil à la fin de ce cycle-là entendra une mouche passer.
Voilà.
Parce qu'on est en état de veille. Mais quand tout va bien et quand on a appris à gérer ça, on réenclenche le cycle suivant. Et on est reparti pour 90 minutes.
Ah, d'accord.
Et ainsi de suite. Et quand on connaît bien ces cycles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on sait se coucher au bon moment, mais que donc aussi on sait se réveiller au bon moment.
Oui.
Parce qu'on a tous connu ça, vous savez, on doit se réveiller, mettons, à 6h du matin.
Ah, oui.
Et puis on ouvre un œil vers 5h20, puis on se dit « Oh, allez, je peux encore me rendormir ». Et pourtant, on est bien, on est réveillé, mais on se rendort. Et quand le réveil sonne, on est complètement cuit.
Ah oui,
ça vous est déjà arrivé, ça? Pourquoi? Parce qu'on a réenclenché un nouveau cycle, on est remonté dans un nouveau train du sommeil, sauf qu'on n'a pas pu le finir, on est tombé du train. Et vous savez ce qui est intéressant, c'est que dans la majorité des pays asiatiques, par exemple, on enseigne ça dès la maternelle aux enfants. On les couche en fonction de leur début de cycle. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit, il est 14h les enfants, fermez les yeux, dormez. Et on crée des générations d'insomniaques en faisant ça.
Oui, moi, c'est ce qui s'est passé, parce que quand j'étais petite à l'école, on nous obligeait à dormir et ils me faisaient crier dessus parce que je ne dormais pas.
Mais des générations d'enfants ont grandi comme ça, moi la première. C'était comment ça, tu ne dors pas, ferme les yeux. Oui, mais si ce n'est pas mon cycle, je ne peux pas m'endormir à ce moment-là. Et dans de très nombreux pays, on apprend à gérer ça dès l'enfance et ça change tout.
Alors, et en plus, ça me fait peur, quoi, parce que tous les nuits, je me dis, est-ce que je vais dormir cette nuit, quoi?
Bah ça devient une obsession après, évidemment.
Oui, voilà. Parce que, vous voyez, s'il y a la pleine lune, ben je ne dors pas.
Si quoi, pardon, je ne vous ai pas compris.
La pleine lune.
Ah, la pleine lune, oui.
Bon. Je ne dors pas. Pendant trois nuits, je ne dormirai pas.
Il peut y avoir une sensibilité à ça, mais je pense que globalement, la première chose à faire, c'est d'apprendre à reconnaître vos cycles de sommeil. Alors ça, c'est un petit travail qui se fait pendant une à deux semaines. Ce que vous faites, c'est que vous avez en permanence sur vous un petit bloc et un crayon.
Oui.
Et à chaque fois que vous avez un coup de mou, les yeux qui piquent, la nuque qui fatigue, une envie de bâiller, vous le notez l'heure. Alors vous arrondissez, par exemple, s'il est 20h05, vous mettez 20h, s'il est 20h10, vous mettez 20h15. Vous arrondissez. Et puis vous allez vous rendre compte que vous allez noter ça pendant une semaine, deux semaines. Et que comme par hasard, attention, parce qu'on a des coups de barre aussi quand il fait chaud, quand on a trop mangé, quand on s'ennuie. Donc au début, on ne peut pas déterminer vraiment si c'est juste son début de cycle. Mais au bout d'un moment, il y a des créneaux qui reviennent. Si par exemple, pendant 8 jours, vous vous rendez compte qu'à 21h30 à peu près, tous les jours, vous avez ce petit coup de mou, peut-être c'est un début de mon cycle. Et pour vérifier ça, c'est facile. Vous vérifiez si du côté de 23h, il n'y aurait pas un autre coup de mou. Ça fait 90 minutes et ça correspondrait à votre cycle. Dans ces cas-là, vous savez que pour vous, ça serait 21h30, 23h, minuit et demi, 2h, etc. Et donc déjà, vous savez que quand chaque cycle démarre, vous avez 7 minutes pour vous mettre au lit.
D'accord.
Et pour prendre vraiment... J'aime bien cette image de train du sommeil parce que c'est exactement
c'est
ça.
C'est beau.
Non mais c'est ça, l'idée, c'est quand... Vous savez que le train passe, quand un train passe, on est prêt à monter dedans.
Oui.
Donc on n'est pas en train de se dire « faut que je me lave les dents, faut que j'aille éteindre la lumière ». Non, on est déjà prêt et on rééduque son sommeil petit à petit.
D'accord. Et c'est possible un jour d'arrêter les médicaments pour dormir à ce moment-là?
Normalement, oui. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est de quand vous vous couchez comme ça, de vous répéter à vous-même « je m'endors profondément ». Je m'endors profondément, je m'endors profondément. Et de vous faire confiance et de lâcher prise. Parce que quand on tourne en boucle sur « Ah, je ne vais pas y arriver, ah, je ne vais pas dormir, ah, ça ne marche pas. » Et là, on se programme soi-même à se pourrir la nuit et à s'affoler. Juste vous dire au début « Bon, si je ne dors pas, ce n'est pas grave, ça va venir. Je suis en train d'apprendre à redormir. »
Voilà, oui. Parce que du coup, dans mon travail, quand je travaillais à l'époque, quand j'ai vu que je ne dormais pas la nuit, je ne voulais pas prendre de médicaments. Parce que j'en avais eu pendant longtemps. Et j'ai dit stop à mes parents. J'ai dit bon, moi j'en ai marre. J'ai 20 ans, je ne vais pas prendre des médicaments toute ma vie. Et du coup, je suis passée de nuit. Et là, j'arrivais à dormir dans la journée, quoi. Mais à un moment, au bout de 7 ans que j'ai été de nuit, à mon travail, Et là, j'arrivais plus à dormir du tout, quoi.
Oui, ça vous a redétraqué, mais là aussi, vous voyez, tous les gens qui travaillent en horaire décalé ou en horaire de nuit, s'ils savaient ça, s'ils savaient travailler et comprendre leur cycle de sommeil, ça irait mieux. Vous voyez, on a Pascal qui nous envoie un texto et qui nous dit « Depuis que je connais et respecte mes cycles, je vais tellement mieux, même ma fibromyalgie va mieux. »
Ah oui, d'accord.
C'est extrêmement important. Et pour tous les gens qui ont des problèmes de sommeil, pour tous ceux qui travaillent en horaire décalé ou de nuit comme ça, apprendre à connaître son cycle de sommeil, c'est vraiment important. Mais vraiment, il faut aussi comprendre le cycle du réveil. C'est-à-dire qu'il faut que votre réveil soit mis à la fin d'un cycle. Si vous vous endormez, par exemple, à minuit, si on calcule ensemble, le premier cycle se termine à 1h30.
Oui.
Donc le deuxième se termine à 3h, ensuite à 4h30, et ensuite à 6h. Donc il faut vous réveiller soit à 4h30, soit à 6h. Mais pas à 6h30.
Mais parce que là, vous pouvez se réveiller.
Pardon?
À 4h30.
Non, mais dans ces cas-là, vous mettez 1h30 de plus. C'est pas grave.
Ah oui, d'accord.
Ce qu'il faut, c'est que ça arrive à la fin d'un cycle. Mmh. Parce que si votre cycle se termine à 6h du matin, ou alors à 7h30.
Oui.
Il y en a un toutes les heures et demie, mais si votre cycle se termine à 6h et que vous mettez un réveil à 6h30, ça fera comme tomber du train. Vous serez extrêmement fatigué en vous réveillant.
Mmh.
Alors qu'on peut comme ça apprendre à dormir moins, mais mieux.
Oui, voilà, oui.
C'est ça qui est important de comprendre.
Qualité de sommeil, quoi, voilà.
Exactement, et ça se rééduque petit à petit. Il faut juste prendre le temps, pendant une semaine ou deux, de noter à chaque fois ça pour connaître vraiment son début de cycle à soi.
Et par exemple, si j'ai envie de dormir à 8h30, je peux aller dormir ou j'attends 90 minutes
Si vous avez sommeil et que ça vous va par rapport à votre vie privée, où est le problème? Simplement, vous savez que ce sera soit 8h30, donc 20h30, soit 22h.
Oui. Voilà, ouais.
Mais pas entre les deux. Sinon, si vous avez raté ce train-là, ben vous regardez un film, vous lisez, vous faites ce que vous voulez.
Oui.
Mais vaut mieux plutôt que de passer 1h30 à regarder le plafond en disant, je vais pas y arriver, je vais pas dormir et à s'énerver. J'ai raté le train, c'est pas grave, je prends le prochain.
D'accord.
Et petit à petit, vous réappropriez ce qui est à vous, c'est-à-dire votre sommeil.
D'accord. Hein? Ok. Là, je sais comme vous dites. Là, j'ai pris des tisanes. On m'a dit que ça aidait. C'est des tisanes à pison.
Alors certaines tisanes aident, malheureusement elles aident surtout les gens qui n'ont pas d'abord pris des médicaments. Parce que là, quand on est tellement imbibé de médicaments, on réagit plus tellement aux plantes, pas aussi facilement. Mais sinon, ça aide bien aussi certaines tisanes, il y en a qui aident bien à dormir.
Oui.
Mais c'est un petit truc, c'est pas ça qui va solutionner tout, mais ça apaise aussi. Mais lâchez prise, calculez votre rythme.
Ça c'est pas mon fort de lâcher prise, c'est ça
bien.
Le problème quoi.
Je sais bien. Mais en tout cas, calculez vos rythmes déjà, ça c'est important.
D'accord.
Couchez-vous au moment où le train part. Programmez un réveil au moment où le train arrive.
Oui.
Et vous allez très vite voir les bénéfices de ça. Vous allez faire des vrais cycles de sommeil complets. Et même les gens qui travaillent beaucoup, d'ailleurs tous les hommes politiques, les grands chefs d'entreprise connaissent ça par cœur.
Bah oui, voilà.
Et bien sûr.
Et moi, du coup, ça m'a bousillé mon travail. J'ai été obligée d'arrêter. J'ai 58 ans, j'ai dû arrêter, j'avais 50 ans, quoi. Parce que je ne dormais plus ni le jour ni la nuit. Et je travaillais auprès d'un pas à l'hôpital, donc il fallait que je sois au top quand même pour travailler. Et je suis passée par la médecine du travail, et parce que j'avais souvent des arrêts de maladie, parce que j'étais toujours fatiguée, j'avais mal au dos, j'avais mal ici, j'avais mal là.
Mais c'est pour ça que je pense qu'on devrait apprendre, enseigner ça aux enfants dès la naissance.
Voilà, ouais.
Connaître et respecter ces cycles de sommeil, ça éviterait des générations d'insomniaques, ça éviterait des tonnes de médicaments.
Oui, voilà, parce que j'ai l'impression d'être intoxiquée par tous ces médicaments-là, quoi.
Mais vous allez pouvoir petit à petit vous désintoxiquer, mais ça prend du temps, forcément. C'est pas quelque chose qui se fait instantanément.
Non.
Mais plus vous allez vous connaître et connaître votre corps et vos rythmes, plus vous allez vous réapproprier ce sommeil-là.
D'accord. Okay.
Et ça va être important. Et petit à petit, diminuer les médicaments.
Oui, parce que c'est pas bon de prendre tout ça. Puis j'ai l'impression que je m'y habitue aux médicaments, quoi.
Oui, puis que ça
et
fait plus rien au bout d'un moment.
Ouais.
Mais voilà, c'est
voilà.
Ça.
Mmh.
Tout à fait.
Donc, puis j'en prendrai pas, ça sera pareil, quoi.
Et oui, c'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Bah, écoutez, en tout cas, Catherine, j'espère que ça vous a aidé.
Oui, beaucoup. Je vous remercie beaucoup.
Et que ça va surtout vous aider à retrouver un vrai bon sommeil qui va vous permettre de reprendre des forces.
D'accord.
D'accord.
C'est très gentil de votre part.
Merci de votre appel.
Beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Bonne soirée, bonne
nuit.
Au revoir.
Merci.
Europe 1, 23h, 1h, la libre antenne. Sabine Marin.
Ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler pour passer à l'antenne. Amandine et Hassan sont toujours disponibles pour vous accueillir au standard Europe 1. Le numéro de téléphone, vous le connaissez bien maintenant, c'est le 3921. Vous pouvez bien sûr aussi réagir par SMS au 73921 en commençant par le mot nuit. Réagir pour apporter un soutien, une idée, un conseil ou un mot gentil. Et c'est maintenant Quentin que j'accueille sur cette libre antenne. Bonsoir à vous, Quentin.
Oui, allô.
Allô, vous m'entendez?
Oui.
Bonsoir, Quentin.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui vous amène alors?
Ce soir c'est un peu compliqué parce que il y a 48 heures j'ai appris que ma femme avait eu une liaison avec un homme il y a bientôt presque 24 mois.
Il y a deux ans, c'est ça?
Oui, 18 à 24 mois, oui, précisément, je ne sais plus la date, mais bon, c'était son coach sportif.
Comment est-ce que vous avez appris ça?
Écoutez, je l'ai appris hier parce que ça fait quelques, depuis 24 mois, de temps à autre, disons que nous sommes des bons vivants, nous aimons boire un verre de temps en temps, et en parlant, ça fait plusieurs fois qu'elle me disait « je vais t'apprendre quelque chose, tu vas tomber des nues, assis-toi en face de moi, parle-moi », et à chaque fois que je venais vers elle, elle parlait d'autre chose, elle déviait.
Vous aviez un doute?
Ah ben oui. Le premier jour où elle a été en rendez-vous avec cette personne, elle est restée à peu près 3 heures avec lui. C'était un peu compliqué parce que en fait, moi je suis commerçant et mon magasin est situé à peu près 200-300 mètres de là-bas. Et je me suis trouvé à venir sur place au moment où elle est sortie. Et je l'ai vue 2 heures ou 3 heures après. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 3 heures, quoi? Je pouvais rien dire parce que elle m'assurait que c'était quelqu'un de gentil, quelqu'un qui lui apportait du bien, avec qui elle parlait, avec qui elle...
Attendez, c'était voilà. un coach sportif, donc elle était supposée aller faire du sport, surtout, non?
Oui, ah ben bien sûr. Oui. La première des choses, c'était faire du sport.
Mais je pense qu'au début, c'est comme ce qui s'est passé. Elle n'a pas eu une liaison dès le premier jour avec lui.
Non, elle l'a pas eu dès le premier jour, non. Par contre, quand elle m'a avoué la chose, elle m'a reconnu que la personne lui avait dit que dès la première fois où elle avait vu rentrer, il savait ce qui allait se passer, quoi.
Oui, bon, ça n'engage que lui. Hein. Enfin bon, ça.
Ouais.
Mais pourquoi est-ce qu'elle vous l'a dit d'un seul coup? Elle vous a dit ça dans quel but?
À mon avis, elle me l'a dit dans le but de se libérer. Parce que je pense qu'elle avait un poids. Ouais. Parce qu'on s'aime, hein. Moi, je suis follement amoureux de ma femme. Hein.
Ça fait combien de temps que vous êtes mariés?
On est mariés depuis 2012. On s'est rencontrés en 2010. Ouais. On s'est rencontrés d'une façon un peu délicate, étant donné que je suis à mon compte. Je fais des piscines. Et j'ai fait une piscine chez ma femme. À l'époque, ma femme était mariée avec un autre homme. Elle avait déjà une fille, une petite fille, et j'ai fait une piscine chez ces gens-là et nous nous sommes mis ensemble.
Oui. Vous étiez dispo, voilà. Vous, à l'époque, vous étiez libre?
Non, j'étais pas libre. Je vivais avec quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi. Voilà. Et je vivais avec quelqu'un qui avait 10 ans de plus que moi. Ça faisait plus de 10 ans que j'étais avec elle et j'étais peut-être au bout de quelque chose.
D'accord.
Et quand j'ai fait la piscine chez ces gens, enfin chez ma femme pour le coup, Je m'attendais pas à ça du tout, quoi.
Elle a été très contente de vos services, on peut dire.
Oui, elle a été très contente de mes services, oui. Ouais.
Donc, coup de foudre, vous vous mettez ensemble, vous vous mariez.
Oui, nous nous marions.
Vous faites
nous
des enfants.
Eu depuis deux enfants.
Ouais. Ouais. Donc, ça en fait trois en tout.
Oui, on en a trois, oui.
D'accord.
On a une grande, enfin, la grande fille a 12 ans, d'un mariage commun avec son ex-mari, et on a eu depuis deux enfants.
D'accord. Ouais. Donc, tout se passe bien, et là, vous apprenez. Alors, cette
tout
histoire, elle durait combien de temps avec ce coach?
Pardon.
Et cette histoire avec ce coach, ça a duré combien de temps?
Et
elle
l'a
dit, ça
C'est pas facile à dire. Ça a duré entre 2 mois et 4 mois. C'est pas évident, quoi.
Oui, donc c'est pas un truc qui a duré. C'était juste un moment d'égarement, qu'on va dire.
Non,
c'est pas une histoire qui
pense.
S'est étalée sur des années.
Non.
Non.
Non, non.
Donc
non,
c'était
non,
un coup de folie.
Quand on apprend ça, ça faisait à peu près 18 mois. Moi, j'ai appris ça il y a 48 heures. Ma femme a sûrement eu le temps de le digérer depuis plus de 24 mois, mais moi, depuis 48 heures, c'est un peu compliqué.
Ah, j'imagine bien. Elle vous a dit ça sur quel ton, en fait? En vous demandant pardon ou comment?
Oui, elle m'a demandé pardon, oui. Ouais. Ouais.
Donc c'est qu'elle vous aime.
Je vais être honnête avec vous, elle m'a demandé pardon.
C'est qu'elle vous aime, elle ne vous a pas jeté ça à travers la figure comme un défi ou comme un...
Elle me l'a jeté à travers la figure, mais elle m'a demandé pardon. Ouais.
Oui, mais comme vous dites, elle vous l'a jeté pour se libérer, elle aussi, d'un poids probablement qu'elle...
Pour
qu'elle
se libérer,
gardait.
Oui. Oui.
Comment vous avez réagi par rapport à elle?
Alors, dans un premier temps, j'ai réagi plutôt calmement, on va dire. Je l'ai pris avec parcimonie, mais depuis 48 heures, c'est un peu compliqué. Et en fait, cette personne, je le connais moi aussi. Et depuis 48 heures, je lui envoie des SMS.
Pour lui dire quoi? Des choses
pour
pas
lui dire qu'il est pas honnête. Oui. Pour lui dire que c'est un malhonnête. Oui. Qu'il profite des femmes, qu'il aime les femmes mariées.
Il vous répond?
Il me répond, oui, il me répond qu'il n'a qu'une femme, parce qu'il est marié en fait, cette personne.
Ah ouais.
Il me répond qu'il n'a qu'une femme et qu'il s'occupe de la sienne et que les autres ne l'intéressent pas, mais c'est forcément faux, quoi.
Bah, c'est pas ce qu'il a dit à la vôtre, en tout cas.
C'est pas ce qu'il a dit à la mienne, effectivement. Ouais.
Il doit en jouer de ce statut-là aussi.
Je pense.
C'est un grand classique, hein, le nombre de femmes qui ont des aventures avec leur coach sportif. C'est presque une caricature.
Je pense. Et en fait, alors ma femme m'a avoué que cette personne avait déjà un chagrin, on va pas dire un chagrin, mais qu'il avait retrouvé déjà son ex-femme avec quelqu'un d'autre dans sa compagnie et que son but était de faire souffrir les femmes.
De se venger.
Voilà. Donc j'ai une femme qui est ultra sensible en fait.
Mmh.
Elle est d'une sensibilité à l'extrême. Voilà. J'irais dire jusqu'à la naïveté.
Vous pensez qu'elle s'est laissée attendrir?
Je pense qu'elle s'est laissée... Je ne veux pas dire attendrir. Elle s'est fait avoir, oui.
Mm.
Oui. Ouais.
Il a trouvé la bonne corde sur laquelle tirer. Ouais.
C'est ça. Mais je ne peux pas lui en vouloir parce que je l'aime.
Ouais, et en toute franchise, quant à vous, en 10 ans, vous n'êtes jamais allé voir ailleurs, ne serait-ce qu'une fois?
Non.
Non.
Jamais.
Mm.
Non. Jamais. Ah non, en toute honnêteté. Même si elle écoute, peut-être qu'elle écoute ce soir, parce qu'elle adore la libre antenne. Europe 1, c'est sa radio préférée. Alors peut-être qu'elle écoute, mais ouais. Ce soir, on s'est disputé. Voilà. Mais.
Alors dites-moi, je suis embêtée, Quentin.
Elle est partie de la maison.
Je suis très embêtée. Je suis très embêtée parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'envoient des SMS. On a des auditeurs et des auditrices fidèles et qui reconnaissent bien les voix. Et qui me disent qu'ils ont reconnu votre voix et que vous faites partie de ces plaisantins qui s'amusent à appeler l'antenne pour raconter un peu n'importe quoi.
Alors pas du tout, non. Alors ça, je vous rassure que non.
Non?
Non.
Ah,
non, non.
Je suis cash, hein, je dis maintenant, parce que j'ai régulièrement des auditeurs qui m'envoient des petits messages en disant « Faites attention, il y a des plaisantins ». Et voilà, ça fait plusieurs fois qu'on a des messages depuis qu'on a commencé cette conversation. Et
oui.
Bon, j'espère que c'est pas le cas, parce que je trouverais ça dommage. Ça n'a pas grand intérêt de monopoliser l'antenne.
C'est pas le cas, non. Non, non. Non, non.
Ok, bon, bah, on continue à discuter alors.
Pas du tout. Non, non, non. Et à l'époque, quand j'avais rencontré ma femme, en 2010, j'avais téléphoné, j'avais eu Sophie au téléphone, Sophie Peters. Ouais.
Et vous l'avez appelée pourquoi, Sophie?
Eh bien, justement, pour lui expliquer que je venais de rencontrer ma femme et que je vivais avec quelqu'un depuis 10 ans et que c'était un peu compliqué, je ne savais plus où j'étais, quoi.
D'accord.
Ah, oui.
Et donc là, alors, si on reprend cette conversation, qu'est-ce qui s'est passé une fois que votre femme vous a dit tout ça hier?
Bah écoutez, j'ai envoyé des SMS au monsieur en question.
Non mais avec votre femme, lui, c'est pas ça.
Ah, avec ma femme, ma femme me disait qu'elle me dit qu'elle m'aime et qu'elle veut pas me perdre et qu'elle est, on a des enfants et qu'il faut qu'on continue, quoi.
Et vous? Est-ce qu'elle le revoit? Est-ce qu'elle est appelée à le revoir?
Non, pas du tout. Non.
Elle n'est pas appelée à le croiser, elle n'est pas appelée à le revoir, elle n'en a pas envie.
Pas du tout. Ce monsieur, il a déménagé en fait. Il avait son activité vers nous et il est parti il y a 8 mois ou 10 mois. Mmh. Il a déménagé. Il n'a pas changé d'activité, mais il a changé de région.
Bon, bah ça c'est déjà fait. Mais vous en êtes où? Alors, vous m'appelez pourquoi ce soir, Quentin? Quelle est la question que vous vous posez?
Ben, je vous appelle parce que je ne sais pas où. Enfin, c'est pas que je ne sais pas où me situer. J'aime ma femme, mais ça reste compliqué, quoi.
Après, chacun a ses points de vue là-dessus. Moi, je sais que je peux en choquer certains, mais moi, je considère que personne n'appartient à personne.
Oui.
Et que ça me paraît pas bien grave, ce genre d'histoire. Je crois que dans la vie, ce qui est vraiment important, c'est ce qu'on construit ensemble. C'est construire un couple, c'est de faire des enfants,
oui, mais
c'est
d'assumer. Ça fait du bien d'écouter des gens comme vous, parce que pour le coup, mon épouse voit une psychologue depuis quelques temps, et moi, j'hésite. Voilà. Et je me dis que d'aller voir quelqu'un et de discuter, je ne sais pas en fait si il y aurait du bon ou du moins bon. Je ne sais pas. J'ai l'impression en fait d'être un père et de dicter les choses. Voilà. Ma femme me reproche souvent de ne pas être près d'elle, de ne pas être là. Je suis à mon compte. Mmh. Je pars le matin très tôt. J'emmène les enfants à l'école. Mon épouse ne travaille plus, c'est pas un reproche, hein. Elle ne travaille plus dans le sens où elle s'occupe des enfants. Nous avons 3 enfants, elle gère les enfants.
Je vous confirme, c'est un travail à temps plein.
Oui, non, mais je suis d'accord, oui, complètement. Voilà. Après, nous sommes entourés, nous avons des nounous, des babysitters. Nous n'avons pas de papy-mamie, ma maman est décédée, sa maman a des soucis de santé, mon papa est de la vieille école, il ne veut pas s'occuper des enfants. Son papa s'occupe des enfants au mieux, mais on ne veut pas lui faire le mettre dans l'embarras. Mmh.
Peut-être vous pouvez proposer à votre femme aussi de vous trouver des petits moments à deux si elle n'a pas trop de contraintes professionnelles. Elle n'en a pas du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne travaille pas. Ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas d'horaire et d'obligation avec un travail. Elle peut peut-être de temps en temps venir vous retrouver pour déjeuner.
Oui.
Prendre un café, avoir des petits moments à vous deux.
Tout à fait.
Juste pour en revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux manières de prendre les choses quand il y a tromperie comme ça. Il y a des gens qui sont radicaux, qui disent c'est terminé, qui vont dans la rupture instantanée, qui cassent tout. Et finalement, ils sont très malheureux pendant des années. Et puis il y a d'autres gens qui se disent « Ok, ça fait mal, mais c'est pas forcément si grave que ça. » L'essentiel, c'est ce qu'on a construit. Et on peut déraper. Et rien ne dit qu'un jour, c'est pas vous qui déraperez.
C'est un petit peu ma philosophie à moi, ça.
Et les gens, souvent, ces gens-là, quand ils arrivent à surmonter ça, ils sont plus forts parce qu'ils se rendent compte que rien ne peut les séparer. Même d'autres personnes qui pourraient interférer dans un couple, parce qu'au bout de 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut arriver. Et que c'est pas forcément grave. Ça n'a que l'importance qu'on lui donne, en fait.
Ouais.
Alors, si vous donnez à un événement comme ça une grande importance, vous saccagez tout, c'est votre choix. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas et qui disent « Non, mais pour moi, c'est la rupture, forcément.
Ouais, » okay. Mais moi, je vais avoir la mauvaise habitude d'aller chercher le pourquoi du comment, d'aller pousser le bouchon au bout, de savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment t'as fait, tout lui demander. Quoi, lui demander
c'est ce que ça a vraiment d'importance. Ce qui me paraît plus important, c'est de comprendre pourquoi elle a eu besoin d'autres bras pendant quelques instants.
Ouais.
Effectivement, les vôtres sont peut-être pas assez présents.
Ça.
Et c'est là qu'il faudrait trouver des petites solutions.
Peut-être.
Des moments de complicité, une activité à deux le week-end, quelque chose qui vous relie.
Très certainement.
Parce qu'une fois de plus, c'est toujours plus facile de détruire que de construire.
Ça fait du bien d'écouter quelqu'un d'extérieur.
Après, ça n'engage que moi. C'est ma façon de voir le couple.
Non.
Moi, je pense qu'on est très très fort
très
quand justement on laisse pas les autres intervenir dans le couple et que ceci est un coup de calife.
Ça n'est pas un faux témoignage, je vous le répète. Ça n'est pas un faux témoignage.
Ouais. Non, bah écoutez, je vous crois. Quand
même, c'est
vrai.
Je suis vraiment dans la peine. Je suis vraiment dans la peine.
Malheureusement, on a quelques petits plaisantins qui, c'est un peu dommage, qui viennent de temps en temps.
Je suis dans la peine. Je suis dans la peine vraiment. Oui. Ah oui. Je sais plus. Je ne sais. Enfin, c'est pas. Je sais pas quoi faire parce que.
Oh, je crois que si vous écoutez votre cœur, vous m'avez l'air assez sensé comme garçon.
Oui.
Vous n'avez pas envie de tout saccager.
Non, non, bien évidemment, non.
Vous n'êtes pas dans le côté vengeance, je vais te le faire payer, je vais te faire du mal.
Non, mais je suis pas dans le côté vengeance. Après, voilà, ma femme me l'a avoué, et d'un autre côté, elle me dit, fais-lui comprendre que tu es au courant, et donc j'ai envoyé des messages, je voudrais pas qu'elle se serve de moi non plus pour...
Oui, alors j'allais dire, elle est assez grande pour le faire, ça aussi, peut-être. Hein.
Oui.
Elle peut aussi lui envoyer un dernier message en disant écoute, voilà, Coco, maintenant c'est bon, j'ai tout mis à plat et mon mari le sait.
Oui, il faudrait, oui. Je pense qu'il faudrait qu'elle le fasse.
C'est une manière aussi d'officialiser une totale rupture.
Oui. Oui, je pense. Oui. Mmh. Oui.
Puis après, une fois de plus, moi je pense vraiment que personne n'appartient à personne, qu'une vie à deux c'est long et qu'on n'est jamais à l'abri de ce genre de situation. Et que peut-être vous, ça vous arrivera dans quelques années et que vous vous direz bah, finalement, voilà, et ce qui compte c'est nous deux.
Oui, mais vous savez, moi je suis passé par des événements dans ma vie où, enfin, oui, on peut pas dire jamais, voilà, jamais fantôme, jamais bras de tourneau, on est bien d'accord, mais j'ai vécu 10 ans de ma vie avec quelqu'un qui était beaucoup plus vieille que moi, j'élevais ses enfants, je me suis remis avec mon épouse qui avait une petite fille que j'ai élevée et que j'aime. Mmh. Elle m'a permis d'avoir 2 enfants avec elle. Demain, si j'étais dans cette situation-là, la première des choses que je ferais, je pense que je lui en parlerai.
Mmh. Vous savez, dans ces cas-là, il y a la théorie et la pratique.
Oui.
C'est toujours pareil.
Bien sûr. Oui.
Dans l'idéal, on se dit je ferais ça.
Après, oui, mais j'aime voilà. Tellement, je l'idole tellement. Ma femme, c'est tout pour moi.
Je pense qu'elle vous aime aussi, sinon elle ne vous l'aurait même pas dit.
Oui, oui.
C'est une preuve de respect aussi, ça.
Elle-même. Mmh. Oui, je t'ai. Mmh. Fondée elle-même. Des fois, elle s'en va, on se dispute, on se chamaille, voilà quoi. Avant, dans la vie d'avant qu'elle avait, elle ne disputait jamais avec son ex-mari. Quoi. Elle m'a dit ça, quoi. Elle me l'a avoué, elle m'a dit, je ne me disputais jamais avant. Mais c'est pas possible. Enfin, tout le monde se dispute, quoi. C'est.
Après, oui, enfin pas forcément, mais enfin bon.
Enfin, se disputer.
Se chamailler.
Oui, voilà, tout le monde à un moment a une discussion un peu houleuse où on a des...
A priori, c'est la vie dans un couple, oui.
Oui, voilà, tout à fait.
Sinon, c'est qu'il y a de la différence, c'est plus embêtant.
Mais elle ne l'avait pas avant, elle avait dans sa vie d'avant, elle avait une monotonie où tout était tout le temps réglé. Voilà.
Bon, bah là, ça s'est déréglé.
Ça s'est déréglé, et quand on discute, elle s'en va, et je sais qu'elle revient, et on se retrouve, et quand on part tous les deux en vacances, on est heureux, on se retrouve, on est un couple.
Eh oui. Donc aujourd'hui, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire ?
Mais écoutez, je vais pas faire grand-chose. Et tout à l'heure, on s'est chamaillé, elle est partie, après elle est revenue, elle est partie se coucher. Moi, je suis tout seul dans mon garage, et je vais aller me coucher, je vais aller la retrouver, quoi. Voilà. Et demain, je vais lui dire que je l'aime. Parce que je l'aime.
Et ben voilà.
Parce que, voilà, c'est ma raison de vivre, en fait.
Vous allez passer par-dessus cette histoire et continuer votre couple et votre famille. Parce que c'est important.
Ah oui, non, mais tout à fait. Mais j'avais envie de vous en faire part, en fait.
Et ben c'est bien, ouais. C'est fait.
Voilà.
Merci, Quentin, de votre appel.
Oui. Bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Au revoir.
Au revoir.
Bonsoir Corinne.
Bonsoir Sabine.
Bienvenue sur cette libre-antenne.
Merci à vous.
Qu'est-ce qui vous amène? Alors de quoi est-ce que vous avez envie de parler?
Alors moi j'aimerais que l'on parle de mon addiction. Une addiction un peu particulière envers une boisson non alcoolisée pétillante pour ne pas citer la marque.
Marron?
Oui, tout à fait, avec beaucoup de sucre.
Un soda très sucré, oui.
Voilà, de très très sucré, qui depuis l'âge de 17 ans a commencé à entrer dans ma vie. Donc, lorsqu'après je suis allée en fac pour tenir éveillée le soir pour pouvoir étudier, j'ai constaté qu'en absorbant cette substance, j'arrivais à rester éveillée beaucoup plus longtemps et à travailler mieux.
Oui, parce qu'il y a de la caféine à l'intérieur, tout simplement.
Voilà, et maintenant j'ai 39 ans. Et c'est devenu un ennemi et non pas un ami qui continue à polluer chaque jour ma vie et auquel je n'arrive pas à m'en débarrasser et je ne sens même plus le goût.
Oui, mais en même temps, enfin, on le sait que dans ces boissons-là, il y a tout ce qu'il faut pour devenir complètement addict.
Oui, et j'ai essayé d'arrêter.
C'est comme une drogue.
Voilà, j'avais l'impression que j'allais faire un peu comme une hypoglycémie, un manque de sucre, que j'allais tomber. Et dès l'instant où j'en avais pas bu pendant une journée, je ressentais le goût et ça repartait.
Oui. C'est une drogue pour deux raisons. La première, c'est que le sucre est une drogue, ça on le sait.
Oui.
Et qu'en plus, à l'intérieur de ces boissons-là, il y a des produits qui rendent addict. Alors, je suis pas une spécialiste de tous ces trucs-là, mais je sais que dans ces boissons-là, tout est fait justement pour que vous ne puissiez absolument plus le lâcher.
Exactement. Et j'ai essayé plusieurs méthodes.
C'est-à-dire, vous avez fait quoi?
J'ai essayé de par exemple d'acheter des toutes petites canettes, les plus petites possibles, me dire voilà, j'en bois une maintenant, une toute petite, j'en bois une deuxième dans 4 heures, j'en bois pas plus de 3 par jour, j'y arrive pas. J'ai essayé la technique de me servir des toutes petites gorgées, mais je m'en servais de plus en plus.
Mais c'est en tant que comme c'est une drogue, ça peut pas fonctionner cette technique-là.
Et j'y arrive pas. Mmh. Et en plus, je ne sens pas le goût, rien que de savoir que la bouteille est là avec sa couleur devant moi. Ça me rassure pour ma vie professionnelle, pour quand je vais quelque part. J'ai toujours besoin d'avoir cet ennemi en ma compagnie.
Vous, donc, vous à un croyez moment que de... vous en avez besoin ? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un ancrage.
Oui,
vous avez ancré ça dans vos... C'est une croyance. C'est-à-dire
d'accord.
Que vous n'en avez absolument pas besoin en réalité, mais vous croyez que vous en avez besoin parce que ça vous accompagne depuis très longtemps. Et que vous vous êtes autoprogrammé en vous disant « Grâce à ça, je tiens. Si j'ai pas ça, ça va pas aller. »
Oui, c'est vrai.
Mais oui.
Quand je l'ai pas, ça me. Je prends un exemple. Si je suis en train de travailler et que je suis appelée à me rendre dans différents endroits, en sortant d'un endroit, il faut tout de suite que j'ai une petite bouteille pour me permettre d'aller à l'autre endroit.
Oui, c'est ça. C'est une autoprogrammation qui est devenue complètement inconsciente. C'est comme quand les gens qui sont accros à la cigarette et qui disent ah, ça fait du bien, je peux faire une pause. En fait, ils ont tellement associé l'idée de la pause à la cigarette qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent plus faire une pause sans cigarette. Et vous avez
d'accord.
Tellement associé cette boisson à « faut que je tiens le coup quand je l'ai » que vous ne pouvez plus faire enchaîner quelque chose sans avoir ça entre.
Mm-hmm.
Donc c'est vraiment, il faut traiter ça comme on traite une drogue, une addiction, c'est vraiment ça.
Mais vous la traiteriez de quelle manière ? Parce que moi j'ai envie qu'elle fuit de ma vie.
Est-ce que vous avez déjà vu un nutritionniste ou une nutritionniste par exemple ?
Alors, honnêtement, non. Pour tout ce qui est médecine naturelle, j'avais plutôt pensé avoir recours à l'hypnose, parce que je sais que l'hypnose a aidé des gens à arrêter de fumer.
Oui,
mais je ne sais pas si ça marche pour ce type de... Un jour, un médecin à qui j'en ai parlé, je ne peux pas citer la marque, malheureusement, à l'antenne, mais la fin m'a dit que j'étais un peu comme une alcoolique, en prenant la marque et en ajoutant à la fin le mot « leak ».
Oui, je vois, j'essaie de l'écrire. Oui, ça y est, j'ai le mot, bien sûr, oui.
Et oui. Donc, il m'a donné cette phrase, enfin ce mot, et je lui ai dit, mais il m'a dit, la différence que vous pouvez prendre les transports, vous pouvez aller n'importe où sans problème, mais vous êtes comme ces personnes-là avec cette substance.
Oui, bien sûr.
Et donc, quand j'ai entendu que l'hypnose aidait les gens à arrêter de fumer, je me demandais si ça marchait sur cette boisson, pardon.
Alors j'allais y venir, oui, l'hypnose est un très bel outil pour tout ce qui est addiction. Parce que par définition, ça devient inconscient, cette espèce d'ancrage que vous vous êtes créé pendant des années. Vous ne vous dites pas, tiens, je vais avoir besoin de ça. Vous vous dites, ah, j'ai besoin de ça. Mais en fait, votre cerveau vous trompe. Vous n'avez pas, objectivement, vous n'avez pas besoin de ça, vous avez créé ce besoin.
D'accord.
Et donc on peut avec l'hypnose effectivement vous enlever ça, vous aider à vous libérer de cette addiction.
Ça marche comme pour les personnes qui veulent arrêter la cigarette.
C'est une addiction, ça marche exactement de la même manière.
D'accord.
Tout ce qui est addiction, alors il faut comprendre aussi qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez mis ça en place pour vous faire du bien. Vous savez, une addiction c'est quelque chose que l'inconscient met en place.
Oui.
La plupart du temps, on ne fait pas exprès de se dire, tiens, je vais me saboter la santé en fumant, en buvant, en mangeant ou en prenant trop de sucre. C'est simplement que si à un moment donné de votre vie, ça vous a fait du bien. Par exemple, il vous est arrivé, on ne va même pas prendre votre exemple, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui mange trop de chocolat.
D'accord.
Si à un moment donné de votre vie, vous avez vécu, mettons, un gros chagrin, un licenciement ou une séparation, et vous avez mangé une boîte entière de chocolat et ça vous a fait du bien. Entendons-nous bien. 5 minutes, une soirée, parce que le lendemain, quand on se regarde qu'on va se peser, ça va faire plus de bien du tout. Votre inconscient, il a enregistré que ça vous a fait du bien. Et l'inconscient n'a pas de morale. Il n'est pas là pour vous dire « attention, c'est pas bon ». Il a juste enregistré « ah, quand elle mange du chocolat, ça lui fait du bien ». Donc à chaque fois qu'elle aura une période de stress, je vais lui suggérer qu'elle mange du chocolat parce que ça lui fait du bien. Vous, c'est cette boisson-là. À chaque fois que vous êtes pas très sûr de tenir le coup, qu'il y a un coup de stress, c'est peut-être un petit manque de confiance aussi quelquefois, ben votre inconscient vous dit « ah, je cite pas le nom, mais bois ça, bois cette boisson ».
Oui.
Sauf que ce comportement qui vous a fait du bien une fois il y a longtemps, il est devenu complètement inapproprié parce qu'excessif.
C'est vrai, parce que quand vous dites excessif, je suis capable d'aller n'importe où en acheter quand je m'aperçois qu'il est tard le soir et de payer ça le double d'un prix habituel dans un supermarché parce que j'en ai besoin.
Oui. Alors une fois de plus, vous n'en avez pas besoin, mais votre cerveau vous fait croire que vous en avez besoin. C'est là où c'est intéressant de comprendre comment on fonctionne par rapport à toutes nos addictions.
Oui.
Très objectivement, vous n'avez pas besoin... Je fais attention de ne pas prononcer...
Oui, c'est pas évident.
Non, on est toujours à deux, je pense que tout le monde l'a compris, mais bon, légalement, c'est vrai que c'est compliqué. On est toujours à deux doigts de le prononcer. Cette boisson... Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre que vous fonctionnez effectivement comme une droguée. Cette personne a bien eu raison de vous dire ça. Mm-hmm. C'est comme si la première fois que vous aviez commencé à boire ça, vous aviez mis à l'intérieur de vous un petit monstre qui se nourrit uniquement de ça.
Oui, oui, parce que des fois je me dis c'est un diable.
Oui, c'est ça. C'est pas pour rien que je vous dis ça, parce qu'on visualise souvent ça pour le tabac avec ce petit monstre intérieur qui dit hop, hop, du cette chose-là, donne-moi cette boisson, cette boisson, cette boisson. Pour d'autres, c'est vite une cigarette, une cigarette, une cigarette. Et vous nourrissez ce monstre en permanence. C'est plus vous que vous nourrissez, ou en tout cas que vous remplissez de boisson, c'est lui.
D'accord.
Il va être intéressant de le tuer, ce petit monstre-là.
Et il en veut encore et encore et encore.
Ah ben, il en voudra toujours plus, de toute manière. C'est comme la cigarette. Quelqu'un qui commence à fumer ne fume pas un ou deux paquets par jour. Il se laisse bouffer. Il se laisse bouffer. Souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens, vous êtes laissé bouffer après bouffer, vous vous êtes laissé bouffer. Et là, c'est la même chose. Ce petit monstre-là, il prend de plus en plus de place, il demande de plus en plus de sucre. Parce que c'est principalement le sucre qu'il réclame dans cette boisson.
Et moi, ce que j'avais essayé pour arrêter une fois, mais c'était une très mauvaise méthode, on m'avait dit « calcule tout ce que tu dépenses en une année pour cette boisson qui pourrait te payer d'autres choses ».
Ça suffit pas.
Même en calculant, non mais ça m'a rien fait.
On fait pareil avec les gens qui fument trop, on a beau leur dire « ils sont pas plus idiots que les autres », ils le savent, mais si c'était si simple, ça se saurait.
C'est ça. Et donc,
c'est un argument en plus, mais c'est pas un argument suffisant lui tout seul.
Et il y a d'autres méthodes aussi qui peuvent permettre d'arrêter en plus de l'hypnose.
Pardonnez-moi, je suis en train en même temps que je vous écoute de lire un texto qui est arrivé pour vous.
Oui.
Quelqu'un qui se fait appeler Feuille d'érable, c'est un joli pseudo, qui dit dans un reportage sur Arte, ils ont fait un test avec des souris et ont démontré que celle-ci était plus addicte au sucre qu'à la cocaïne.
D'accord. Oui, donc on voit l'importance du sucre sur la réaction du corps.
Et quelqu'un qui vous dit qu'elle essaie le jus de pomme naturel sans addiction, avec de l'eau minérale gazeuse allongée. C'est très très bon. Oui, mais ça sera l'étape d'après, remplacer. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est quand on a une addiction, en fait, c'est que nos 5 sens sont occupés par cette chose. Je vous donne l'exemple, ça peut être cette boisson, ça peut être une cigarette. Vous avez la vue. Vous le disiez tout à l'heure, vous l'avez très bien dit. Ah, mais quand je vois la bouteille, j'en ai envie.
Oui.
Vous avez l'audition. Les petits petites bulles qui pétillent, qui vous accompagnent depuis des années. Quand vous l'ouvrez et puis quand vous le buvez. Vous avez le geste, bien évidemment, d'ouvrir la canette, de vous servir. Vous avez l'odorat, parce que ça a une odeur, et vous avez bien sûr le goût.
L'odorat, je ne l'ai plus depuis longtemps sur cette boisson.
Ah, consciemment non, mais votre inconscient la reconnaîtrait très bien. Inconsciemment, vous l'avez. Donc, vos 5 sens sont occupés. On a pour habitude de dire que quand 3 sens sont occupés, on est sous hypnose.
trois sens.
D'accord. Là, vous en avez cinq occupés en permanence. Donc, vous êtes en permanence sous hypnose négative, c'est-à-dire dépendante de ce truc-là.
Oui, tout à fait.
Et donc, on fait pareil avec les gens qui veulent se libérer de la cigarette. Si on enlève cette addiction, on pourrait par exemple vous suggérer que ça va sentir très mauvais, que ça va puer le caca, que vous en serez dégoûté. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne va rien remplacer. Donc, vous risquez de compenser par autre chose très vite. L'idéal, c'est de remplacer ces cinq sens-là par cinq autres choses. Par exemple, vous pourrez d'abord travailler en hypnose et ensuite remplacer la vue de ça par une image qui pourrait vous dégoûter complètement. Par exemple, ce petit monstre dont on parlait tout à l'heure. Si à chaque fois que vous voyez une pub, parce qu'en plus on est bombardé de pubs pour cette boisson-là.
Oui.
D'ailleurs, petite parenthèse, je mets un petit drapeau, on reviendra à ce que je vous disais là sur les sens. Vous savez qu'à une époque, notamment cette marque-là se servait de ce qu'on appelle les images subliminales. Et que dans les cinémas, quand il y avait des petits films en première partie, je ne sais plus comment on appelle ça, vous savez, les courts-métrages.
Oui.
En première partie, eh bien en image subliminale, il y avait 28 fois l'image de cette boisson-là qui apparaissait. Ce qui fait que dès qu'il y avait une pause, les gens se précipitaient pour aller en acheter une canette.
D'accord, les 28
images,
fois.
Les images subliminales ont été interdites d'ailleurs depuis cette époque-là. Mais beaucoup de marques de cigarettes et de boissons comme ça se servaient de ça. Donc pour en revenir au sens, l'idéal serait d'associer une image vraiment négative, cette image de petit monstre qui est à l'intérieur de vous par exemple. À chaque
oui,
fois
un
vous avez
petit monstre rouge.
Ben, le truc le plus dégoûtant qui vous vient à l'esprit.
D'accord.
Un truc vraiment répugnant. Et à chaque fois, oui rouge, je comprends pourquoi, rouge et noir. À chaque fois que vous allez voir cette boisson, une pub pour cette boisson, une image ou une bouteille, vous allez tout de suite dans votre esprit mettre cette image-là. Superposer
d'accord.
ce petit monstre, ça c'est la première chose. Ensuite, j'improvise là parce que c'est pas forcément évident de faire ça comme ça à la radio.
Bien sûr.
Le son. Eh bien, vous pourriez peut-être, c'est tout bête, s'il y a une chanson que vous aimez beaucoup, une chanson qui vous donne la pêche, le sourire, un truc que vous aimez, vous mettre ça en ancrage musical. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous alliez être sur le point de reprendre cette boisson pour enchaîner une autre activité,
oui.
Plutôt faire une pause où vous écoutez ce morceau qui vous donne la pêche.
D'accord.
Ça peut être bien aussi. Dans le gestuel, trouvez autre chose aussi. Remplacez ce geste d'ouvrir la canette. Combien de fois par jour vous ouvrez une bouteille ou une canette de cette boisson-là, par exemple ? En moyenne.
Oh là là, ça pourrait être 20 fois, plus de 20 fois par jour.
Voilà, donc ce geste-là, il faut aussi le remplacer par autre chose.
D'accord.
Je ne sais pas forcément lequel. Peut-être un petit galet que vous auriez dans votre main, avec lequel vous pourriez jouer. Quelque chose qui vous occupe les mains. Pour remplacer aussi ce canal-là. Et puis il en reste deux, l'odeur, vous me disiez que vous le sentiez plus consciemment, mais vous pouvez aussi prendre une huile essentielle, quelque chose qui vous plaît, ressentir une autre odeur.
D'accord, oui, découvrir une nouvelle odeur.
Voilà, et là je rejoins l'auditrice qui nous disait tout à l'heure, maintenant pour la cinquième chose, c'est donc le goût. Le jus de pomme ou autre chose, réhabituer votre cerveau à aimer un autre goût, mais tant qu'à faire, à vous ancrer quelque chose de sain.
D'accord.
Un jus de pomme bio, un thé, une eau pétillante au citron, enfin quelque chose que vous allez vous réapproprier comme goût, mais qui évidemment en plus vous fait du bien et pas du mal.
Mais la fatigue, parce que quand je ne le consomme pas, ça m'épuise.
Je crois que c'est l'inverse. C'est là où votre cerveau se trompe. Ce qui vous épuise, c'est le sucre
oui.
que vous ingurgitez. Et en fait, la dépendance, si vous voulez, elle est dans l'autre sens. C'est exactement... comment vous dire ça ? C'est le jour où vous aurez arrêté de vous remplir de sucre que vous récupérez votre énergie et pas l'inverse.
D'accord, je comprends. D'accord.
Il y a un message de Laurent qui nous dit bonjour, je peux lui expliquer comment j'ai arrêté d'en boire, j'en buvais 3 litres par jour. Laurent, je veux bien, dites-nous comment. Appelez-nous, 3921, dites-nous comment, ça m'intéresse comme témoignage. Et qu'est-ce qu'elle nous dit sinon ? On a quelqu'un, Luc, qui nous dit bonsoir Corinne, il existe des centres ANPAA dans presque tous les départements. Avec de très bons médecins et psychologues.
Alors j'avais une fois justement consulté un médecin, un addictologue qui s'occupe des personnes qui ont notamment une dépendance au niveau de l'alcool.
Mmh.
Et il m'avait dit qu'il ne pouvait pas m'aider.
Ah, bon.
Bah, donc,
c'est pour ça que je pense que l'hypnose est une bonne idée là-dessus.
Oui, surtout que c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup, parce que je vois beaucoup de personnes avancer par rapport à ça sur différents thèmes. Et il y avait aussi
oui,
l'acupuncture que je voulais essayer aussi. Il y avait ces deux médecines douces que je voulais essayer.
Ben une fois de plus, c'est ce que j'ai toujours tendance à dire, essayez et voyez si ça vous convient, c'est aussi simple que ça. Si ça vous convient, ben bingo, vous êtes gagnante, si ça vous convient pas, vous arrêtez, vous passez à autre chose.
Mais quelqu'un qui fait de l'hypnose, il lui faut... Enfin, on ne peut pas définir le temps pour se sevrer, entre guillemets, mais on estime qu'il faut combien de temps pour vraiment s'en sortir? Est-ce que ça dépend de la volonté?
Non, alors la volonté n'a rien à voir là-dedans, parce que la volonté, c'est du côté conscient. Et le côté conscient ne gère que 15% de ce que nous sommes.
D'accord.
Donc la volonté n'y peut pas grand-chose. On peut se libérer d'une addiction avec l'hypnose en 1 à 3 séances, la plupart du temps.
En 1 à 3 séances.
Oui, c'est
d'accord.
Assez rapide. Maintenant, ce qui m'intéresse quand même, c'est sur votre personnalité. Est-ce qu'il y a des choses... Est-ce que vous êtes quelqu'un de stressé, d'angoissé, d'inquiet?
Alors oui, sous une forme... comment je pourrais vous dire? Quand, par exemple, j'ai quelque chose de stressant à vivre, je vais prendre un exemple, quand je faisais mes études et qu'on avait des examens oraux, moi, je voulais toujours passer en première parce que j'étais énervée, je voulais être soulagée, donc j'étais... c'était une forme de stress, par exemple.
Mmh.
Donc, je veux toujours passer pour être pas débarrassée, mais pour avoir fait l'action et être soulagée. Donc, j'ai aussi une forme de stress sur ça, oui.
Et en vous écoutant, je me demande si le fait de prendre cette boisson, c'est pas aussi comme une sorte de soulagement. Comme si vous offriez à la fois une pause, une récompense et une...
J'ai jamais pensé.
Réfléchissez-y, parce que ça peut être aussi une autre manière de travailler le problème. D'un côté, de vous défaire d'une addiction, mais aussi de comprendre que peut-être, si c'est pour compenser un moment de stress, il faudrait apprendre à travailler sur ce stress différemment.
Mm-hmm. Oui, c'est vrai que je vais vous prendre un exemple, comme par exemple quand je suis en train de travailler, que je vois que l'heure passe, que la journée va bientôt se terminer, que je n'ai pas eu le temps de faire tout ce que j'ai à faire, je vais me mettre à boire de plus en plus de Coca-Cola. Enfin, de cette boisson, pardon, excusez-moi.
Et un euro dans la canotte.
Et à chaque fois, je pense qu'en consommant ça, hop, je vais pouvoir continuer ce que j'ai à faire, que je vais aller plus vite. Et en fait, non, c'est pas ça du tout.
Vous avez dit le mot exact, je pense que...
Voilà.
Ça n'est qu'une pensée.
Oui, c'est vrai.
Donc ça, avec l'hypnose, vous allez pouvoir travailler sur des pensées et en mettre d'autres à la place et vous rendre compte que ça n'était qu'un leurre. Vous le savez d'ailleurs très très bien. Comme tous les gens qui sont addicts à quelque chose savent très bien que ça n'est qu'un leurre. Quelqu'un qui me dit j'ai besoin d'une cigarette pour faire une pause, ah bon? Non, je crois pas, envie peut-être, mais besoin, personne n'a besoin de ça. Personne n'a besoin de se foutre en l'air la santé avec du sucre, avec de la drogue.
Non.
C'est une envie qu'on s'est créée soi-même, donc il faut défaire ça. Mais chez vous en plus, je vous dis ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre à quel moment vous prenez cette boisson.
Tout le temps.
Oui, mais comme là vous me dites, voilà, je le prends aussi à un moment où d'un seul coup, je vais peut-être pas y arriver, j'ai besoin d'aide.
Oui, comme une béquille, entre guillemets. Oui,
c'est ça. Sauf que cette béquille, elle est en train d'enfoncer un trou plutôt que d'en colmater un, vous voyez.
Oui, tout à fait.
Parce que pour la santé, vous êtes encore très jeune, mais au fil des ans, se bourrer de sucre comme ça, c'est juste une horreur.
Oui, et ça joue sur les dents. J'ai déjà, entre guillemets, eu des petits problèmes par rapport à ça.
Mmh.
Et puis, j'avais un papa qui était quand même diabétique, donc de type 2, donc faut aussi faire attention à ce point.
Je ne sais pas si vous connaissez les émissions de Michel Simès et d'Adriana Carambeu sur l'incroyable pouvoir du corps humain.
Oui, tout à fait.
Il y en a une il y a quelques mois sur le sucre, justement, qui était absolument fascinante. Si vous pouvez la trouver en replay.
Oui.
Où il était détaillé tout ce qu'on ingurgite comme sucre à notre insu pendant une journée. C'est faramineux.
Ah oui, ça peut m'intéresser.
C'est faramineux. Vous le retrouverez probablement sur un replay quelconque ou sur YouTube, je ne sais pas. Et il y a ensuite une dame qui était venue expliquer qu'elle avait essayé pendant un an d'arrêter tout sucre. Elle avait expliqué tous les bénéfices, même sur le vieillissement. C'est impressionnant.
Ça joue même sur la peau, ça joue sur beaucoup de choses du corps, les reins.
Ah oui, ça les fatigue à force, bien sûr. Bien sûr.
Et ça, on me l'a déjà dit que c'était très dangereux par rapport aux reins. Et ça joue aussi apparemment sur l'état de la peau. Ça peut même jouer sur l'état des cheveux, j'ai lu.
Mais ça ne m'étonne pas, c'est vraiment une saloperie le sucre.
Et un jour, quelqu'un m'a fait une démonstration. Il a pris un petit peu de cette boisson qu'il a mis dans un gobelet. Il avait une vieille pièce toute rouillée à nettoyer.
Oui, j'allais vous dire ça. Oui.
Il a mis la pièce dedans et en bout de quelques instants, elle était parfaitement...
Décapée.
Oui. Et on m'a dit, imagine dans ton estomac ce que ça fait.
Et ben voilà, pareil. Mais malheureusement, ça ne suffit pas forcément à vous faire arrêter parce que pour l'instant, votre cerveau, il a vraiment un ancrage profond.
Oui, et c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de le sortir de ma vie.
Ouais, vous allez tuer ce petit monstre.
Oui.
Avant que ce soit lui qui vous tue, parce que c'est vraiment important, ça.
Exactement.
Ouais.
Je pense que, justement, les médecines douces sont ce qu'il me faut pour combler cette dépendance, la fuir.
Puis vous savez ce qui est terrible aussi avec le sucre, c'est que depuis qu'on est tout petit, tiens, t'as été sage, un bonbon. Tiens, t'as été gentil, t'as une bonne note, un gâteau. Et on associe aussi beaucoup le sucre aux émotions à cause de ça, très inconsciemment. Parce que ça a été une récompense, ça nous a permis de patienter sur quelque chose. Et on sait qu'on en arrive à se dire, j'ai besoin de sucre. Ou je me récompense. Oui. Quelquefois, souvent, les gens se récompensent eux-mêmes.
Tout à fait.
Et ça, c'est un truc qu'il faudrait comprendre quand on est parent. Dès le plus jeune âge, de ne surtout pas mélanger dans la tête des enfants le sucre, la nourriture avec les émotions. Ça, c'est très important aussi. Et pour oui, dites-moi.
Et moi, ce que je voulais savoir, c'est quand j'essaye, par exemple, parce que cette marque propose toute une gamme d'autres boissons, sans sucre ou autre, j'ai beau essayer, ça ne me convient pas.
Alors,
c'est vraiment cette couleur-là, pas une autre.
Oui, parce que vous avez cet ancrage-là. Attention à tous, vous verrez dans cette émission de Michel Simès, ils en parlent très très bien, attention de tous les aux édulcorants. D'abord parce qu'on n'est pas tout à fait sûr que ça soit si bon que ça pour la santé. Et ensuite parce que c'est à l'heure. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une boisson avec un édulcorant, votre cerveau, il va être content. Il va se dire, tiens, ça a le goût du sucre, je suis content, je produis de la dopamine, je suis content. Sauf que votre estomac, lui, il n'aura pas sa dose de sucre. Donc il va en réclamer deux fois plus. Et c'est un cercle extrêmement vicieux, ça, tout ce qui est édulcorant. Parce qu'une fois de plus, vous trompez votre cerveau, mais vous ne trompez pas votre corps.
Non, oui, parce que c'est comme une mémoire. Quand on l'absorbe, lui, il a l'habitude d'avoir ça et pas autre chose.
Et puis le cerveau, quand vous prenez un édulcorant, le cerveau dit à votre corps, c'est bon, elle a du sucre. Et l'estomac, il attend. Il n'y a pas de sucre qui arrive. Donc il va déclencher encore une autre envie. Et avant que j'oublie, je pensais à quelque chose en vous parlant. Je ne sais pas si vous connaissez le sucre de fleur de coco.
Non, je note en même temps.
Et moi, ça fait des années que j'ai remplacé tout ce qui était sucré par ça. C'est très très bon. Ça ressemble à du sucre de canne un peu. C'est marron, marron foncé. On peut tout sucrer et c'est même une friandise pratiquement tellement c'est bon. Et il n'y a aucun sucre dedans.
Et ça se trouve dans
Dans tous les magasins bio.
Les lieux bio, c'est ce que j'allais vous demander.
Sucre de fleur de coco.
J'ai noté fleur de coco. D'accord.
Ah, ça y est, on a la réponse de Laurent qui vous disait qu'il avait su s'arrêter.
Oui.
Il vous dit, vous pouvez transmettre mon numéro à Corinne pour lui indiquer comment j'ai réussi à ne plus boire une goutte de cette boisson qu'il a bien citée. Donc si vous voulez, hors antenne, on vous transmettra son numéro de téléphone pour qu'il vous explique comment il s'en est sorti.
D'accord. Mais je pense que moi, je vais opter pour l'hypnose et je vais partir sur cette médecine douce parce que je pense que... Et par contre, ce que je voulais vous demander, c'est... Dès qu'une première séance est faite, ensuite la seconde séance est faite au bout de combien de temps après la première ?
Alors là, c'est pareil, ça n'engage que moi. Moi, je viens d'une école où on m'a appris qu'il fallait 28 jours pour que le cerveau mette en place des nouvelles connexions.
Oui.
Donc je ne prends pas, sauf séances très particulières, dans des cas très particuliers, je ne prends pas les gens avant un mois.
D'accord.
Et quelquefois, j'entends des gens qui me disent « Oh là là, j'ai fait de l'hypnose pendant un an, toutes les semaines ». Pardonnez-moi, mais là j'aurais tendance à dire attention, méfiez-vous.
Oui, donc en fait au bout de 28 jours on fait une deuxième séance.
Ça dépend, quelquefois vous savez, j'ai souvent l'image de l'entonnoir avec plein de cailloux. Quelquefois on enlève le plus gros et tous ceux qui sont derrière partent avec. Quelquefois l'addiction au tabac elle est résolue en une seule séance, quelquefois pas. Donc on voit ce qui se passe, ce qu'il faut accepter. C'est qu'il faut à l'inconscient 28 jours pour mettre un nouveau mode de fonctionnement en place. Et que donc les résultats n'arrivent pas forcément dans les heures qui suivent, mais dans les jours, dans les semaines qui suivent. Okay. Donc ça ne me paraît pas utile de forcément faire une autre séance tout de suite. Un mois après, ça me paraît bien.
Et donc, à la suite de cette séance, est-ce qu'on continue à boire un petit peu de cette boisson pour lentement déshabituer le corps ou on arrête net ?
Il n'y a rien à faire. En fait, ce qu'il faut faire avec l'hypnose, c'est laisser faire. Juste accepter ce qui vient. C'est pas vous qui allez décider est-ce que j'en bois encore un peu ou pas. Vous verrez bien. Si ça se trouve, vous serez là le lendemain à vous dire, tiens, j'en ai plus envie du tout. Moi, je prends l'exemple pour le tabac. Certaines personnes qui font des séances d'hypnose vous disent, écoutez, le lendemain, je n'ai plus du tout envie. D'autres vous disent, bah tiens, pendant 3-4 jours, j'ai continué à fumer, puis d'un seul coup, ça m'a dégoûté, j'ai arrêté. Et d'autres vous disent, bah, je fumais, par exemple, un paquet par jour, c'est-à-dire 20 cigarettes, bah, oui. J'en fume plus que deux. Donc le chemin est très personnel à chacun, ça dépend ce qu'on va trouver derrière. Il y a plein de choses qui peuvent se révéler derrière une addiction comme ça. Mais il n'y a pas à choisir, vous verrez bien ce qui peut se passer. Il peut très bien arriver qu'effectivement, dès le lendemain, vous vous disiez, bah, je suis complètement dégoûtée, j'en ai plus envie du tout. Et bah, ça sera très bien. Et à ce moment-là, vous allez mettre en place ces 5 nouvelles habitudes dont on parlait tout à l'heure.
D'accord, oui, et je les ai bien notées.
Pour ne pas laisser de vide, la nature a horreur du vide. Donc ce serait dommage d'aller remplacer ça par autre chose. Et puis peut-être travailler, et là ce serait intéressant de voir avec votre thérapeute, de travailler ensuite sur peut-être ce stress que vous n'arrivez pas à gérer, ou ces petits moments de panique. Un peu comme quand vous me disiez, oh là là, faut que je passe en premier, sinon ça va pas aller.
Oui. Justement, l'exemple aussi que je voudrais conclure, c'est que moi, dans ma vie, bon, j'ai réussi mes études sans trop de problèmes, mais par contre, le permis de conduire est une chose que je n'ai jamais été capable de réussir.
C'est-à-dire, vous êtes allée jusqu'où ?
J'ai eu le code, j'ai fait les heures de conduite, et c'est là, au niveau des heures de conduite, que ça a toujours été problématique pour moi.
C'est-à-dire, concrètement, il se passe quoi ? Vous y allez quand même au cours de conduite ?
Ah oui, je fais les heures, mais je ne maîtrise pas la boîte de vitesse, par exemple.
C'est-à-dire, il se passe quoi ? Il y a un moment de panique ?
Je passe. En fait, je vais vous prendre l'exemple. Si je dois passer la quatrième, je ne vais pas vous passer la quatrième. Je vais passer n'importe quoi. Je vais regarder la boîte et je vais partir en zigzag.
Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit à ce moment-là ?
Dans mon esprit, ce que je dis souvent à mon compagnon qui conduit parfaitement bien, je me demande comment les gens arrivent à avoir de la musique dans leur voiture, parler en même temps, conduire, faire toutes ces choses-là, gérer les obstacles, les imprévus. Et moi, je n'y arrive pas. Et ça, c'est une chose qui me fait énormément défaut dans la vie.
Mais vous ne pouvez pas y arriver, vous êtes en train d'apprendre.
Mais même en apprenant, j'ai beau faire des tonnes et des tonnes d'heures, je n'ai jamais réussi.
Vous l'avez passé quand même, l'examen ?
Oui, et je l'ai raté. Et après, j'ai abandonné.
Oui, il y a quelque chose dans tous les exemples que vous me citez, de l'ordre de la confiance en vous aussi. Hein.
Oui, vous avez raison.
Comme s'il y avait quelque chose à compenser qui n'est pas complètement...
C'est dommage, parce que ça m'empêche d'avancer pour conduire, pour évoluer sur ce domaine. Alors à un moment donné, je m'étais dit peut-être je vais faire ça en 3 jours, parce qu'il existe des formations en 3 jours, mais c'est vrai, quand on n'est pas capable de le faire normalement, c'est pas en 3 jours qu'on va en être plus capable.
Non, pas forcément. Effectivement, il faudrait peut-être travailler sur la confiance en vous aussi, c'est pareil.
Est-ce que vous pensez que l'hypnose peut aussi m'aider sur ce terrain-là ?
Bien sûr, bien évidemment. Si ça vous convient, si vous trouvez un thérapeute qui vous convient avec cette méthode-là, profitez-en pour travailler sur toutes ces choses-là qui, à mon avis, sont liées chez vous.
Oui, c'est, vous avez entièrement...
Vous étiez une petite fille comment, vous ?
J'ai été une petite fille unique, qui a eu tout ce qu'elle voulait, qui a eu une très belle vie, à qui on cédait à tous ses volontés, entre guillemets, et j'ai toujours eu une très belle vie quand j'étais enfant.
Mais est-ce qu'il n'y avait pas un niveau d'exigence un petit peu latent, un petit peu demandé par papa et maman ?
Mais c'est-à-dire que moi, je vais vous prendre un exemple. Si j'avais, mettons, 15 ou 16 de moyenne, on ne me disait jamais que c'est bien. On me disait toujours, tu peux encore faire mieux.
Voilà. Je sentais bien quelque chose comme ça là-dessous.
Et toute ma vie, ça a été comme ça. Tu peux toujours faire mieux. Et souvent, mon conjoint me le dit lui-même. Tu ne fais jamais de compliments. Mais je lui dis, mais oui, mais on ne m'a pas appris à en recevoir.
Et donc, du coup, c'est compliqué parce que vous avez toujours peur de ne pas être à la hauteur. C'est jamais assez bien.
Oui, tout à fait.
Ouais. C'est intéressant de travailler là-dessus aussi.
Exactement, parce que je pense que tant qu'on n'a pas réglé tous ces petits problèmes-là, on ne peut pas espérer avancer encore dans la vie.
Et surtout, ces problèmes-là, on ne peut pas les résoudre avec du sucre, avec une addiction quelconque.
Non,
c'est le propre de toutes les addictions. On a l'impression qu'on peut colmater les fissures avec tout ça.
Non.
Et ce n'est pas le but.
Non.
Pardonnez-moi, je bafouille, parce qu'en même temps que je vous parle, ce n'est pas toujours pareil. Je suis en train de lire tous les SMS qui arrivent. Il faut avoir confiance en soi, vous dit une auditrice. Pascal vous dit, en parallèle de l'hypnose, il y a la sophrologie qui pourrait être bénéfique pour la confiance et pour le calme. Oui, certes, si ce n'est que quand on fait l'hypnose, on fait un peu de sophrologie aussi, puisque le début de l'hypnose, c'est la sophro, ça se rejoint un petit peu. Apprendre à retrouver le calme, mais Il y a vraiment là chez vous, en discutant avec vous, quelque chose de l'ordre de au lieu de combler les trous par cette boisson ou par autre chose, la combler par de l'estime pour vous, la confiance en vous.
Oui.
Et vous dire que même si vous n'êtes pas la meilleure dans tous les domaines, ça ne vous empêche pas d'avancer.
Ah non, tout à fait.
Vous donnez le droit d'être imparfaite.
Oui, et personne n'est parfait.
Exactement.
Heureusement.
Répétez-vous chaque jour, je suis parfaitement imparfaite et j'aime ça.
Je suis parfaitement imparfaite et j'aime ça, d'accord, je note en même temps.
Ça vous enlèvera une pression que vous vous mettez sûrement souvent.
D'accord.
Corinne, le temps passe très très vite.
Oui, je vous remercie en tout cas pour cet échange très agréable.
Moi aussi, j'espère que ça vous a apporté beaucoup de choses.
Oui,
vous allez réussir à vous libérer de cette boisson dont on a presque réussi à ne pas prononcer le nom.
Le mot.
Si vous êtes d'accord, on va vous transmettre. Donc il y a les coordonnées de Laurent qui voulait vous laisser son téléphone. On va vous le transmettre
hors
antenne. Hassan va vous reprendre tout de suite et vous le transmettre, d'accord ?
D'accord. Merci à vous, Sabine. Bonne fin de soirée.
Avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Et oui, c'est déjà fini, presque, dans quelques instants. Un grand merci à Corinne, à Quentin, à Catherine, à Charlotte qui sont venues partager avec nous des moments de vie, des doutes, mais aussi des espoirs. Merci à tous ceux qui ont participé par SMS. Merci à mes assistants qui sont toujours fidèles au poste, à Sane et Amandine. Merci à Fabrice Foujourouz qui est là quelquefois, souvent. Merci à Andreas Papadian qui est là aussi, qui sont là pour moi, pour vous, pour cette émission. Demain soir et jusqu'à jeudi, vous retrouverez, je le sais avec grand plaisir, Sophie Peters. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à partir de 22h30. Et d'ici là, nous restons bien sûr en contact sur ma page Facebook, Sabine Marin. Je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à vendredi prochain.